Ah mais c'est à moi là. Là c'est fini la musique, Samuel. Il est temps là. Hop, ok. Excusez-moi, j'étais en train de me préparer mon café. Comment ça va vous? Merci d'être là. On stream le soir en ce moment. Fin de journée. Hein. Quelle drôle d'habitude. Alors qu'on pendant toutes ces années, genre je stream depuis 40 ans. Alors que c'est bientôt 3 ans ces derniers temps. On était plutôt le matin, voilà, mais voilà, oui, j'étais en question pour un champion ces derniers temps, et vous le savez, maintenant j'ai pris l'engagement de, quand je ne peux pas streamer le matin, de streamer en fin de journée. Hier soir d'ailleurs, on a streamé ensemble, du coup je me suis couché un petit peu tard, 2h du matin, donc ce matin je me suis dit non, j'ai quand même lu les journaux, et surtout, ben, j'ai vu, et vous avez peut-être vu aussi, que à 20h, là dans 21 minutes, le président de la République, le président Macron, il y a Berkenix, il dit, mais c'est qui Macron? Mais je vais te dire, moi je suis là pour répondre aux questions. Eh bien, va prononcer une allocution. Allocution, c'est-à-dire qu'il va parler tout seul, sans être interviewé. Voilà, une allocution aux Français, qui peut être en direct ou qui peut être un message enregistré, qui va être diffusé a priori depuis l'Élysée. Et je me suis dit, bon ben, let's go alors. Donc non seulement, regardez, pop, j'ai lu les journaux pour vous ce matin, avec encore beaucoup d'articles. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que on se pose un petit peu. J'ai dit allocution. C'est quoi une allocution? Beaucoup d'articles sur ce qui se passe au Proche-Orient, et tant mieux, parce qu'on a envie de comprendre, je crois. Voilà. Je suis content d'ailleurs d'avoir consacré tous ces derniers streams le soir là, au moins 3 à la situation au Proche-Orient. Voilà, certains étaient en mode ah là là, ça va être chaud sur Twitch quand même de parler du Proche-Orient comme ça, avec toutes les tensions que ça provoque. Et puis, je crois qu'on a fait la démonstration. Ici on pouvait parler de tout, c'est un peu le projet de cette chaîne, même si on n'était pas d'accord, mais de façon respectueuse, ça c'est cool. Et on va continuer, donc c'est notre 4e stream consécutif, après celui de lundi soir, de mardi soir, de mercredi soir, de jeudi soir, quasi essentiellement consacré à ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza. Donc, on va le refaire ce soir, avec tous les articles intéressants de la journée sur le sujet, pour essayer d'avancer dans la compréhension, même si le sujet est infiniment complexe. Et puis en plus, on va regarder à 20h, faut pas que je le rate, peut-être mettre un petit réveil, réveil 19h55, pour regarder le président Macron, donc l'allocution, ensemble, et la commenter. Alors peut-être pas tout de suite, pour quand même pas perdre le fil de ce qu'il dit. Je pense pas que ça va être très très long. D'ailleurs, je vais me chercher un petit papier, un crayon pour prendre des notes à l'ancienne, 19h55. Voilà. Et après, on débriefe tout ça. Et puis, je vous lis tous les articles que je vous ai mis de côté. Je pense que je vais avoir le temps de vous lire un ou deux articles en guise d'introduction, justement, sur le sujet, sur la prise de parole du président Macron. Karlsborg G, merci pour le 19e mois d'abonnement. Tatouf Métouf 78, toujours un plaisir de voir ton étrange pseudo. Merci pour ce très gentil message à propos de bouffée d'oxygène. C'est adorable. Merci pour le 26e mois d'abonnement. Merci Renifleur de Paix. J'ai des pseudos intéressants ici. Paix, P-A-X, comme celle qu'on aimerait bien voir s'installer au Proche-Orient. Merci beaucoup pour le 23e mois d'abonnement. Pats, merci pour cet abonnement. Fannikel pour le 12e mois d'abonnement. D12 pour cet abonnement. Quentin QSI pour le Prime. Mas 4, Wilson, Asgog, Adetail, Pâte d'eau fruits, et à l'instant Anna Bananas, les habitués sont là, merci pour le 26e mois. Daria, merci beaucoup pour le très gentil message et le soutien, vous êtes formidable. Voilà, je vous lis un petit peu, on a le temps, je vous lis un ou deux articles sur l'allocution, l'intervention du président Macron ce soir, et on écoute ça ensemble. Très bonne question de Racim Alg, c'est à quelle heure l'allocution de 20h? Eh bien, suspense intolérable. Petit roulement de tambour dans vos têtes, et eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer, parce que je suis un journaliste qui essaye d'être hyper bien informé, que l'allocution de 20h du président de la République, Emmanuel Macron, eh bien devrait se dérouler à 20h. Voilà, ne me remerciez pas, c'est mon travail. Ne vous risquez pas à ce genre de cascade de l'information à la maison, ça demande énormément d'entraînement, donc là, aucun souci. Ne me remerciez pas. Voilà. Petit train de la hype qui arrive. Merci pour le 2e mois d'abonnement. Fab, merci pour le 3e mois d'abonnement. Tompton75, merci pour le 5e mois d'abonnement. Le Justine Chaud, merci pour le 18e mois d'abonnement. Je suis heureux de te voir. Voilà. Grâce à vous, je vais peut-être rentrer dans mes frais, puisque, comme je vous l'ai annoncé, j'étais un peu surpris d'ailleurs. J'ai reçu un mail aujourd'hui en mode, en fait, pour avoir le droit de diffuser l'allocution du président, il fallait payer des frais de participation aux frais techniques, en fait. Voilà. Alors, il y a débat là-dessus, parce que la question est de savoir si l'allocution du président ne devrait pas pouvoir être diffusée gratuitement, sans cette participation aux frais techniques. Voilà. Alors, Pierre-Yves, non. Alors, Pierre-Yves dit, mais pourquoi c'est payant alors que c'est l'Élysée qui capte? En fait, j'ai appris que c'est pas l'Élysée qui capte, c'est une chaîne de télévision qui capte et qui met, ce qui arrive souvent d'ailleurs, mais c'est bizarre, je pensais que c'était les moyens vidéo de l'Élysée. Non, c'est une chaîne de télévision qui capte et qui, c'est classique dans notre profession, qui met à disposition sa captation vidéo aux autres chaînes, aux autres médias, mais il y a une participation aux frais. Voilà. Alors les autres télés ont l'habitude de faire ça, j'ai même la grille avec tous les tarifs. Et puis il y avait une petite ligne, pour Internet, deux points, ça coûte tant, ça coûte, je ne sais plus combien. 2000 balles, je vais vous dire. Voilà. 2150, je ne sais plus combien que ça coûte. 2150 euros, voilà. Hors taxe, je ne sais pas quelle est la TVA là-dessus. 2150, j'étais un peu surpris, mais je me suis dit, je vais pas faire 2150 euros de sub ce soir. Mais je suis désolé, je trouve qu'on vit un moment tellement essentiel à suivre, à couvrir, à analyser, que je me suis dit, je veux le faire ce truc, quoi. Alors sachez que j'en ai beaucoup discuté avec des créateurs de contenu intéressés aux mêmes choses que moi, qui étaient confrontés aux mêmes problèmes et qui sont quand même très surpris de ça. Donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. Moi, je ne voulais pas prendre le risque de faire ban ma chaîne ou quoi qu'est-ce, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment très, 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 très cher, un peu anormal. Au-delà même du prix très élevé, je me pose la question, est-ce que ça ne devrait pas être gratuit? C'est une parole publique, présidentielle, voilà. Donc, c'est un... Bon, En gros, pour la faire courte, j'ai payé pour être sûr de pouvoir diffuser et qu'il n'y ait pas de problème. Je soulève la question et on va soulever la question. Les gens qui, comme moi, s'intéressent à ce genre de contenu. Hein ? Voilà. Bon, on ne va pas parler que de ça parce que c'est un détail technique. Mais parce que l'important, c'est le Proche-Orient. Mais je voulais que vous soyez au courant de ce truc puisque je sais que ça soulève quand même beaucoup d'interrogations. Nicolas, merci pour les 2 abonnements offerts à la commu. Les 3, même les 4, pardon, je n'avais pas vu. Va le faire. Merci pour le 2e mois d'abonnement. Fab pour le 3e mois. Tombe 75. Merci encore. Voilà. Bon, peu importe, l'argent, on en reparlera, c'est pas ça qui est important. Donc, Manu, comme dit Predato, Emmanuel Macron, c'est à 20h. Voilà, je vais surveiller ça du coin de l'œil. Et je vous ai mis plein d'articles d'aujourd'hui. Très bonne blague de Fiat qui dit t'as pas été victime d'une arnaque aux personnes vulnérables ? Putain, si ça se trouve, il y a mon amoureuse qui vient de sub. Merci beaucoup, Hélène, pour le soutien. Merci beaucoup. Coucou à la famille si on nous regarde. Si ça se trouve, j'ai été l'objet d'une arnaque aux personnes âgées. Si ça se trouve, j'ai été l'objet d'une arnaque aux personnes âgées. Et en fait, c'était un faux mail. Et je me suis fait avoir de 2150 €. Et maintenant que vous me le dites, dans le même mail, on proposait de m'installer une pompe à chaleur et des cellules photovoltaïques sur le toit pour un devis que je trouvais assez élevé. Que j'ai pas souscrit pour le coup parce que je trouvais ça étrange en fait. Et là je commence à... Vous êtes super, je kiffe. Voilà, même sur les actus les plus dramatiques, on arrive à quand même ensemble sourire et c'est cool quoi. C'est cool, elle était bien bonne celle-là. Vincent Sixème, merci pour l'abonnement offert à la commu. Cathy Préfleury, merci pour le 5e mois. Coco Poc, merci beaucoup pour le 11e mois. Et encore merci à Hélène. Bon, elle était bonne celle-là, elle était pas mal. Bon, 47, bon ça va, je vous lis encore un petit peu. Dans 3 minutes, je vous lis un ou deux articles sur l'intervention du président Macron pour voir un petit peu pourquoi c'est pas essentiel. Il n'est pas sûr que la France ait une influence, je vous spoil un petit peu le truc, mais il n'est pas sûr que la France ait une influence décisive sur ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui et d'une manière générale, d'accord. Berkanix, il va parler normalement que du Proche-Orient. Peut-être d'autres choses. Mais ça fait un moment qu'il n'a pas parlé en plus. Donc, c'est pas hyper décisif parce que l'influence de notre pays dans la région, hélas, n'est pas déterminante, quoi. Mais c'est pas inintéressant quand même. Qui a une influence décisive alors ? Très bonne question. C'est une question qu'on soulève depuis plusieurs jours ici. Merci, les modos. Il y a même GCTF qui dit donc on va regarder un truc qui sert à rien. Non, quand même, non. Non, parce que c'est quand même intéressant. Le regard de la France, puisque le président Macron, au niveau de la diplomatie, représente notre pays, le regard de la France sur le sujet. Si, quand même. Si, bien sûr. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a Berkanix qui dit « Mais qui est influent au Proche-Orient ?» USA et Russie, dit Berkanix. Ben, je vous en parlerai, parce que je vous ai mis un article là-dessus sur l'aspect diplomatique de cette crise au Proche-Orient. Il y avait un dossier dans l'Humanité hier, qui était passionnant, le quotidien Luma, qui disait « Mais que fait la diplomatie internationale ?» Voilà. Ce qui a été l'occasion de constater que la diplomatie internationale a abandonné la question palestinienne depuis très longtemps déjà, hein, puisque vous savez que, enfin, pour les plus anciens qui nous regardent là ce soir, à une époque, on a parlé et on a vraiment espéré un processus de paix israélo-palestinien. On a vraiment cru qu'on allait y arriver avec des gens comme Yitzhak Rabin, comme Arafat... Et certains hauts dirigeants étrangers de l'époque, et puis les extrémistes des deux camps, voilà, les Netanyahou côté israélien, les Hamas du côté palestinien, ont fait échouer ce processus de paix, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt parfois à ce que la paix ne réussisse pas. Il y avait Clinton à l'époque, je crois, du côté américain, c'est vrai. Et donc, ça fait des années qu'on ne parle plus de processus de paix au Proche-Orient, comme si la question palestinienne était réglée, alors qu'elle n'est absolument pas réglée. Voilà. Et l'Humanité, hier, lançait un appel en disant mais what, quoi ? Donc ça y est, c'est bon, c'est fini. Et ce qui vient de se passer nous a rappelé, finalement, à ce conflit, et nous a rappelé que ce n'était pas terminé. Voilà où on en est. Je résume. Merci Aline 41, je suis content que tu reviennes. Aline, désolé, obligé. Merci beaucoup pour le 9e mois. Allez, je vais vous chercher un article sur l'intervention du président Macron dans ce que j'ai lu ce matin. Le reste, on le lira tout à l'heure. Alors, c'est la une du Parisien, bande de Gaza, le monde retient son souffle puisqu'on attend maintenant une éventuelle intervention offensive terrestre de Tsahal, de l'armée israélienne, dans la bande de Gaza. Dossier dans Le Parisien sur les clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment. On se penchera sur quelques-unes de ces clés. C'est plutôt bien fait, c'est assez pédagogique. La souricière de Gaza, comment une telle intervention militaire terrestre va être extrêmement, extrêmement compliquée pour l'armée israélienne. Tiens, voilà l'édito que je voulais vous lire sur l'intervention du président Macron, là, dans 9 minutes. « Trouver le bon ton », édito d'Olivier Beaumont, qui est grand reporter au Parisien. Voilà 6 mois qu'Emmanuel Macron ne s'est pas solennellement exprimé devant les Français. C'était le 17 avril pour tirer les leçons de la séquence des retraites et tracer les fameux 100 jours pour redresser le pays. Ce soir, ce jeudi soir, le chef de l'État reprend donc la parole depuis le palais de l'Élysée. Donc ça fait 6 mois qu'il n'a pas parlé, mais sur un sujet tout autre, puisqu'il s'agit de la crise au Proche-Orient, ses conséquences en matière de déstabilisation dans la région, comme à l'échelle internationale, voilà. Et également sur le sol français, puisqu'on sait que ce type de conflit peut aussi s'importer, notamment en France, avec les communautés concernées par le sujet dans notre pays. Il aura fallu attendre 5 jours après l'attentat du Hamas contre Israël, 5 jours, c'est long, pour que le chef de l'État finisse par trouver le bon ton, au risque d'apparaître entre-temps en décalage avec l'horreur de la situation. Dimanche, par exemple, il apparaissait, dit Le Parisien, en train de jouer au basket dans un fauteuil roulant pour la promotion des Jeux Paralympiques. Le lendemain, il se rendait au siège de France Télévisions pour l'hommage à Jean-Pierre Elkabbach. Pendant ce temps, tous les médias tournaient en boucle sur la situation en Israël avec des images insoutenables, et les oppositions s'échauffaient à l'Assemblée, vous savez, notamment avec la prise de position de certains députés de la France Insoumise. Fallait-il qu'il s'exprime plus tôt devant les Français, s'interroge Le Parisien. C'est difficile à dire, dit le journaliste. Dans ces moments-là, la précipitation est toujours mauvaise conseillère, confesse un de ses proches. Le sujet est d'ailleurs très sensible, il hystérise les oppositions. Et nous devons, dit ce journaliste du Parisien, faire attention à ne pas opposer les personnes de confession musulmane à celles des confessions juives. Son rôle, c'est au contraire de rassembler. Oh pardon, c'est pas Le Parisien qui dit ça, c'est un conseiller du président Macron. Excusez-moi, je reprends la phrase. Quel est le rôle du président Macron selon un conseiller de l'Élysée, et ce conseiller dit « Le sujet est très sensible, il hystérise les oppositions, nous devons faire attention à ne pas opposer les personnes de confession musulmane à celles de confession juive. Le rôle du président, au contraire, c'est de rassembler. » Fin de l'édito. Ce jeudi, il entend donc le président reprendre la main dans une allocution où chaque mot sera pesé au trébuchet. Exercice d'équilibriste. Est-ce que ce sera en direct, là, dans un instant, ou enregistré? Je pense que c'est d'abord... Je pense que c'est enregistré. Je surveille. Ok. Voilà. Pas que ça commence sans moi, hein. Je vais faire un petit tour du côté des sources où je peux capter cette allocution en direct du président de la République depuis l'Élysée, voilà, pour lequel j'ai choisi de payer les droits pour être sûr que il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, je surveille. Voilà. On surveille. Je vous lis un petit peu avant. Ça va démarrer dans un instant. Petit café qui va bien. Oui, Lison est au taquet, MMG. Alors, restez ici. On va la regarder ensemble, je vais la diffuser et on va la commenter. Bon, pas forcément la commenter ensemble, sauf si le président Macron dit une énormité, et la commenter surtout après, on va la regarder ensemble. Et puis vous pourrez commenter entre vous dans le chat, bien sûr, comme d'habitude, et puis je vous lirai, bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Je vais chercher un papier, un crayon pour prendre des notes, parce que je suis un peu de la vieille école. Et hop, ça c'est le réveil qui nous dit que c'est imminent. Pour noter les choses qui me semblent les plus importantes, j'ai quand même pas mal bossé sur le sujet ces derniers jours. J'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur le Proche-Orient ces derniers jours. C'est un conflit que je suis en tant que journaliste depuis 25 ou 30 ans. Je ne suis pas un spécialiste de la question internationale. Je ne suis pas un spécialiste du Proche-Orient. Je m'intéresse au sujet comme tout journaliste. J'ai passé un peu de temps là-bas parce que quand j'étais jeune journaliste, j'ai voulu aller sur place. Je suis allé en Israël et dans les territoires palestiniens. C'était il y a longtemps, hein, pour essayer de comprendre au plus près. Ça ne fait pas moi un spécialiste, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Ne bougez pas, je vais chercher une feuille de papier. Bon, ce studio de stream ne fait pas 600 mètres carrés, donc ça va assez vite. Hop. On remet les écouteurs parce qu'on va écouter très attentivement ce que dit le chef de l'État. Il est 55. C'est mignon. Comme le dit MMG, montez le volume et rendez-vous au premier dérapage. Premier virage. Ah, premier dérapage. Elle est pas mal. Si c'est une allocution enregistrée, il y a assez peu de chances qu'il y ait un dérapage, quoi. Alexandre, salut, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous. Vous posez la question des sous. 2150 euros, c'est le montant des droits que j'ai réglé. Voilà, j'étais un peu foufou, mais c'est tellement important ce sujet, je me suis dit, allez, let's go, c'est parti, quoi. Voilà, donc j'ai cassé le PEL et on y va. L'heure n'est pas trop tardive pour de la caféine. Non, Matt Burn, parce que en ce moment, je travaille un petit peu et après ce stream, je ferai des trucs, notamment pour préparer l'hebdo Étienne de demain. Tenez, hop, on a une seconde. L'hebdo Étienne de demain, voilà. Où il sera question, donc l'émission du vendredi soir à 20h, dans laquelle on revient sur l'actualité de la semaine avec 4 invités, dans laquelle, forcément, il sera question du Proche-Orient. Hop. Certains m'ont dit, en pensant à bien, d'ailleurs, et Sam, il faut pas... Hugo, je vais te remercier dans un instant, tu régales. Samuel, il faut peut-être pas parler du Proche-Orient sur ta chaîne, pas parler du Proche-Orient dans l'hebdo Étienne, ça divise tellement les gens, ça crée tellement de tensions, peut-être que... Mais impossible, comment tu peux faire une émission sur l'actualité de la semaine sans parler du Proche-Orient? C'est la négation du journalisme, en fait. Ici, on parle de tous les sujets, bien sûr, et même ceux qui créent parfois des tensions, quoi. Donc demain, parce que justement, on en a parlé hier soir, pour les créateurs de contenu, pour les youtubeurs, pour les streamers, c'est quand même très compliqué de devoir prendre position sur ce sujet, et ils n'ont pas à prendre position. Ceux qui disent « Hey Squeezie, hey machine, qu'est-ce que tu penses du Proche-Orient en tant qu'influenceur ? Il faut que tu prennes position ?» Non, non, non. Personne n'est obligé de prendre position sur rien. Donc... Pour ne pas les mettre en porte-à-faux, je n'ai pas invité de streamers et de youtubeurs parce que c'est très compliqué pour eux. J'ai invité des journalistes, voilà, ou ex-journalistes, parce que Mimi Hegel est youtubeuse aujourd'hui, mais elle a embrassé la même profession que moi, elle a été très longtemps journaliste, voilà. Michael Sadowski, c'est le directeur de la rédaction du Huffington Post, excellent site d'information. Julien Pin, c'est un confrère de France Info, spécialisé dans le debunk, la lutte contre les fake news. Et Thierry Moreau, journaliste aussi. Et j'aime sa sérénité, Thierry, j'aime son calme par rapport à l'actualité. Je me suis dit, voilà. Donc, je suis assez content de cette petite line-up demain soir. On parlera pas que du Proche-Orient, mais beaucoup du Proche-Orient. Hop, je vais regarder quand même. Je ne veux pas louper le début de l'allocution du président. Parce que je m'en voudrais quand même. J'espère que je suis au bon endroit. Hein. J'espère que je suis au bon endroit. Alors, ça. Est-ce que je...
Bon, merci beaucoup en tout cas d'être.
Non, ça, c'est un truc enregistré, ça.
D'être là, je suis heureux.
Vous y avez cru, hein. Non, c'est pas là. Oh, j'ai tellement peur de la louper. Excusez-moi, hein, je me concentre sur l'aspect technique de ce stream. Hein. Oui, à 2100 euros, si le truc dure 10 minutes, ça va faire 200 euros la minute, quoi. Donc, ouais, faut pas que je le rate, quoi. Bon, je surveille. Hein. Oui, j'ai prévu une deuxième source au cas où. Ouais. Bon, excusez-moi, il est 59, là, c'est imminent. Là. C'est, quand est-ce que ça commence, là? Pourquoi j'ai pas le lien? Pourquoi j'ai pas le lien? Attendez, je fais une recherche. Non, je ne vais pas être là. On va la voir, vous inquiétez pas, je suis pas inquiet. Enfin, si, je suis très inquiet parce que je devrais avoir le lien sous les yeux. Bon, il est où le lien? 24 septembre, c'est pas là. 11 octobre. Je sais pas. On va la voir, vous inquiétez pas. Non, ça commence pas, je suis sur France 2 parallèlement.
Emmanuel Macron a reçu les chefs des partis politiques en milieu de journée à l'Élysée.
Ça commence pas, qu'est-ce que vous racontez? Je suis sur France 2 là. C'est un petit délai, c'est rien. Ok, c'est bon.
Françaises, Français, mes chers compatriotes.
Quel est ça, bougez pas.
Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Des massacres de kibboutz, des villages entiers décimés, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolue. Depuis 18 mois, le monde avait déjà connu le retour de la guerre en Europe, que ce soit en Ukraine ou contre l'Arménie. Mais cette violence contre le peuple israélien a sidéré toute une nation et le monde entier. Je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d'Israël, que nous pensons à la terreur éprouvée par les Israéliens, que nous pensons à ces familles qui savent qu'elles ont perdu un des leurs et à celles qui attendent des nouvelles d'un proche, que nous pensons à ce peuple encore dans l'épreuve et le deuil, que nous nous tenons à ses côtés. Nous, Français, nous savons dans notre chair ce qu'est cette douleur. Nous avons, nous aussi, pleuré des victimes fauchées dans une fête, dans l'insouciance de la jeunesse, dans l'ordinaire d'une vie de famille. Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui mais. La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste. Nous sommes aussi liés à Israël par la douleur du deuil. À cette heure, 13 de nos compatriotes sont morts lors de ces attaques. Jamais, depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes. Et ce sont tous les Français qui ce soir les pleurent. Comme nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux retenus en otage. Je pense ce soir aux familles, je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà, je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés. Nous sommes aussi pleinement mobilisés pour assurer l'information des familles sans nouvelles de leurs proches et pour garantir le rapatriement à tous ceux qui le souhaitent et le demandent, et informer et secourir. Un premier vol affrété arrive ce soir à Paris. D'autres vols sont prévus dans les prochaines heures et les prochains jours. Et nous avons renforcé nos moyens pour épauler sur place les près de 200 000 Français qui vivent aujourd'hui en Israël. Nous sommes à vos côtés et continuerons de l'être. Je sais aussi que nombre d'entre vous s'inquiètent d'un engrenage tragique pour la région. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec le président israélien, Isaac Herzog, avec son premier ministre, Benjamin Netanyahou. J'ai également longuement échangé avec les principaux dirigeants de la région, ceux de l'autorité palestinienne, de la Jordanie, de l'Égypte, du Liban, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis comme du Qatar. Avec nos principaux alliés européens, et américains, nous partageons les mêmes priorités. Apporter un soutien ferme et complet à Israël, éviter toute extension du conflit aux pays voisins, notamment au Liban, et coordonner l'action humanitaire internationale. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région. La lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Et les conditions d'une paix durable sont connues. Ce sont des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël et un État pour les Palestiniens. C'est la ligne que la France défend avec constance, qu'elle continue à défendre sans varier et qu'elle continuera de porter. Je le redis, la sécurité de l'État d'Israël, la lutte résolue pour l'éradication du terrorisme dans la région et le respect des aspirations légitimes de chacun forment pour nous un ensemble indissociable. Et ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Forte de sa clarté et de sa constance, la France a la responsabilité d'agir toujours pour la paix et le dialogue. Elle le fera. Mes chers compatriotes, cet événement est un séisme en Israël, au Proche-Orient et bien au-delà. Cette barbarie heurte profondément la conscience humaine universelle. Et elle touche plus particulièrement nos compatriotes de confession juive. Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation. Je sais l'inquiétude, la peur parfois qu'il y a en ce moment même chez beaucoup d'entre vous, et je veux le redire ce soir. La République sera là pour vous protéger et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Dès samedi, j'ai demandé au gouvernement de renforcer nos mesures de protection des écoles, des lieux de culte et de culture. 582 d'entre eux ont vu leur sécurisation accrue. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et nos armées sont engagées dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les procureurs ont reçu l'instruction de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes antisémites et les apologies du terrorisme. Nous sommes d'une vigilance absolue aussi face aux expressions de haine sur les réseaux sociaux et évidemment à la menace terroriste. Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Souvenons-nous de toutes les graves crises que nous avons traversées ensemble. Souvenons-nous de la façon dont nous avons fait bloc chaque fois face au terrorisme. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence, là-bas, de la violence antisémite, soit le prétexte, ici, de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confession musulmane que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur. Ni suspicion, ni division entre nous ne doivent exister. Aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales. Et ne cédons rien face à toute forme de haine. Dans ce moment que nous vivons, mes chers compatriotes, nous devons condamner le terrorisme et défendre nos valeurs de fraternité et de laïcité. C'est le sens même de la rencontre que j'ai initiée tout à l'heure avec l'ensemble des responsables de partis politiques représentés au Parlement et les présidents des trois chambres constitutionnelles. Ce fut un échange de respect, du pluralisme, de la diversité des opinions, mais surtout de concorde et d'unité. Cette unité républicaine est une force pour nous-mêmes, pour notre cohésion et pour pouvoir porter la voix singulière et universelle qu'est celle de la France. Je vous le demande ce soir, restons unis. Unis pour nous-mêmes, unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient. C'est ainsi que nous serons à la hauteur de notre propre histoire, celle d'une république qui protège chacun et d'une nation qui défend l'idéal de paix. Je nous fais confiance pour cela. Vive la République. Vive la France.
Voilà pour cette...
Ok. C'était court. 11 minutes. 11 minutes. Ok. C'est pas... Quelqu'un me disait, mais il annonce rien. Pas tout à fait. Il a dit trois choses. On va y revenir. Mais c'est, je m'attendais à quelque chose de plus long, peut-être de plus dense. Il n'y a pas de surprise. Il y a une petite surprise selon moi. Une petite. Mais on va en parler ensemble. Votre sentiment là-dessus, je vous fais mon débrief. Je vous fais mon débrief en trois points, ça va être assez rapide. Ah, on s'en fout des sous, arrêtez, c'est pas grave. Je vais remercier les seuls dans un instant. L'important, c'est, le sujet est tellement important que la question des sous, là, elle est, on va la mettre au 15e plan, quoi. Alors, je vous lis un petit peu. Superficiel pour les loops. Pas un mot pour les Palestiniens, Natacha 971. Je ne peux pas te donner tort. J'ai trouvé que la question des civils palestiniens frappés actuellement par les bombardements, pour moi, sauf erreur, c'est une toute petite phrase, pas très forte. On va y revenir. Guardian est-il dit, il n'a pas dit grand chose finalement. Trois choses et demie. C'est un peu, pour vous dire mon sentiment, c'est un peu décevant, ça manque de souffle. Matt Bird estime que c'est un discours très israélo-centré, le peuple palestinien souffre tout autant que le peuple israélien, on va en parler. Erin Deal, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Rien sur le siège de Gaza, quasiment rien. Une phrase, une toute petite phrase qui vous a peut-être échappé, tellement elle était courte et allusive. Oui. J'ai trouvé ça. Fury Class, qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'il me manque un mot. Pas trop quoi? Je pense qu'il te manque un mot. Vraiment dégoûté, me dit Kenza, qu'il n'y ait pas de mots sur le bombardement de civils. Tu parles des frappes de Tzal, de l'armée israélienne, donc les frappes aériennes sur la bande de Gaza. Assez vide, me dit Dar de Flug. Aucune vraie surprise, me dit MMG, mais aussi preuve que Macron n'a que très peu d'influence. Bon, au niveau sur la question du Proche-Orient, aujourd'hui la France n'a pas d'influence, ça c'est sûr. Je vous lis encore un tout petit peu et puis je vous donne mon petit débrief. Par contre, je n'avais pas vu, vous étiez aussi nombreux, merci beaucoup. Hugo estime que c'est totalement vide même. Pas à la hauteur des enjeux, ce discours, me dit Perséphone. Était-il obligé de faire cette allocution? Oui. Enfin, moi j'estime en tant que citoyen que le chef de l'État, sur un sujet international aussi grave qui peut importer sa violence sur notre sol, ce qui s'est vu dans le passé, oui, il doit intervenir. Est-ce que les mots ont été à la hauteur de l'enjeu là-bas et chez nous? Je trouve pas, mais je suis pas à sa place, hein, je suis pas président de la République. Je remercie les subs et je vous donne Et je vous donne mon petit débrief et on en parle et vous me dites ce que vous en pensez. Mongatre TV, merci pour le 23e mois. M. The North pour le 2e mois. Kodama pour le 5e mois. Eat More Toast, je vous remercie globalement. Val Working, Fubinix, Hugo pour les 10 abonnements offerts à la commu. Merci mon ami. Anthony Pic, Lionel, Aline, merci beaucoup. Alors, je reprends. Ça va être vite, hein, parce que ça a duré 11 minutes. Très vite, le mot « terreur » est prononcé par le président Macron. On se dit que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va parler du Hamas comme d'un mouvement terroriste ? C'est l'un des débats en France. Est-ce que les actions de samedi dernier sont des attentats ? Voilà. Est-ce que c'est du terrorisme ? Ou est-ce que ce sont des crimes de guerre ? Hein ? Vous connaissez, il y a ce débat actuellement en France, notamment avec certains élus, pas tous d'ailleurs, la France insoumise. Quelqu'un comme François Ruffin, par exemple, n'est pas d'accord avec certains de ses homologues de la France insoumise. Très vite, le président Macron parle de terreur et explicite très vite. C'est vraiment le début de son intervention. Rien ne peut justifier le terrorisme. Donc il le dit, hein, c'est du terrorisme selon lui. Il ne peut y avoir de oui mais, c'est d'accord, ok, c'est du terrorisme, mais les Palestiniens souffrent tellement. Pas de oui mais. Le Hamas, il l'affirme encore plus fort, un peu plus loin, le Hamas est un mouvement terroriste. Bon, sur ce débat en France, il prend position. Ça n'est pas vraiment une surprise. Ça n'est pas vraiment une surprise. Le Hamas est considéré de toute façon comme une organisation terroriste par les États-Unis, par l'Union européenne. Donc, c'est le contraire qui a été extrêmement surprenant. Et il a cette phrase aussi. Il estime que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas une guerre entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui, hein. Il ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Il dit, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre Israéliens et Palestiniens, c'est une action terroriste contre un État, contre une nation. Il aurait pu ajouter contre une démocratie, mais il ne l'a pas dit. Voilà. Juste après, il a dit pour moi une phrase qui est très importante, parce qu'elle comporte, et surtout parce qu'elle ne comporte pas, par les mots qu'il ne dit pas. Il dit, Israël a le droit de se défendre, ok, mais en protégeant les populations civiles, c'est même le devoir d'une démocratie. Et sur ces 11 minutes, pour moi, sauf erreur de ma part, c'est le seul moment où il évoque les Palestiniens, les civils palestiniens, actuellement enfermés, il n'y a pas d'autre mot, hein, la frontière avec l'Égypte, elle est fermée au sud, ils ne peuvent pas partir, dans la bande de Gaza. C'est le seul moment où, sans dire le mot palestinien, sauf si je me suis trompé, sans dire le mot population palestinienne, habitants de Gaza, il évoque la situation des civils. Il dit, Israël a le droit de se défendre, mais en protégeant les populations civiles, c'est le devoir d'une démocratie. Non, il ne parlait pas des civils israéliens. Non, ça n'a pas de sens. Là, il parle des civils palestiniens. Mais il ne le précise même pas. Et là, je trouve que c'est très juste. C'est trop juste. C'est-à-dire que c'est ma vision personnelle de ce qui se passe là-bas. On ne peut pas nier le droit à Israël de se défendre contre un mouvement terroriste qui est le Hamas, dont dans les statuts, il est écrit que le Hamas vise à détruire l'État hébreu d'Israël depuis toujours. Bon, on ne peut pas nier à Israël ce droit-là, et on ne peut pas nier à Israël le droit de se défendre. Hein. Mais aller tuer des civils, c'est un autre crime, à minima, un crime de guerre, à minima. À minima, hein. Et donc ça mérite qu'on en parle. Là, on est à... les derniers bilans font état de... ils ont sûrement évolué, 1200 morts, sans doute un peu plus côté israélien, au fur et à mesure qu'on découvre les cadavres tués par ces fous du Hamas, parce que tuer des civils sans défense, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, c'est du terrorisme, bien sûr. 1200 morts au moins côté israélien, et je crois qu'on approche ou qu'on dépasse légèrement les 1000 morts, peut-être que ça a déjà évolué côté palestinien. Et puis côté palestinien, ça va sans doute exploser si les bombardements se poursuivent et s'il y a une offensive terrestre dans la bande de Gaza qui semble se préparer. On va en parler dans les articles que je vous ai mis de côté. Et donc, sur ces 1000 et plus victimes palestiniennes à ce jour, cette simple phrase sur 11 minutes Israël, oui, tu as raison. Quelqu'un me dit, ce ne sont pas des fous, ce sont des barbares. Tu as raison. Oui. Israël a le droit de se défendre, mais en protégeant les populations civiles, c'est le devoir d'une démocratie. C'est bien de le dire, mais c'est court. Mais c'est court, c'est trop court. Bon, je trouve que c'est trop court. Après, le président Macron évoque l'engrenage possible dans la région, c'est vrai. Est-ce que le Hezbollah, est-ce que l'Iran pourrait entrer dans ce conflit et ça deviendrait un conflit régional, ce serait gravissime. Si le Hezbollah entre dans ce conflit, si l'Iran entre dans ce conflit, quid de la réaction des Américains alliés d'Israël qui ont envoyé notamment un porte-avions dans la région des aéronefs et des navires. Vous imaginez dans quoi on met le doigt là, l'engrenage. Donc le mot engrenage est évoqué par le président Macron. Il nous dit, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec les responsables de la région. Bon. So what ? T'as eu des gens au téléphone, pardon, on va dire les termes, tu nous annonces rien, donc bon, ok, super. Non, je fais pas du mauvais esprit, mais bon, disons que, bon, il a passé des coups de fil, quoi. Après, il dit des choses plus intéressantes. Pour moi, c'est le passage le plus intéressant. Et qu'on mettra en perspective tout à l'heure par un article, un papier sur l'évolution du rôle de la France depuis la création de l'État d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Voilà. Parce que tous les présidents n'ont pas eu le même regard, la même stratégie là-dessus. Il y a eu l'avant de Gaulle, il y a eu de Gaulle à Chirac, voilà, il faut un processus de paix, il faut un État pour les Palestiniens, un pays pour les Palestiniens, deux pays qui vivent en paix, et c'est la seule condition de la paix. Donc, et puis après, il y a eu l'après-Chirac, et l'après-Chirac, et en fait, il y a une forme d'abandon de la cause palestinienne par les présidents français, hein, et l'oubli, en fait, de l'abandon de l'idée que ben, il faudrait donner un pays, un État aux Palestiniens. C'est un truc qui est quasi oublié, quoi. Et le président Macron ce soir a dit la lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Donc ça va sans dire, mais mieux encore en le disant. Voilà. Et cette recherche de la paix dans la région, elle passe par deux conditions. Sécurité pour les Israéliens, ok, et un État pour les Palestiniens. Donc on a quand même, pour moi c'est le truc le plus intéressant de ces 11 minutes, on a quand même un président Macron qui réaffirme, et sauf erreur de ma part, on lira un article là-dessus, ça fait un moment qu'en France, on ne l'a pas redit, qu'il faut un État pour les Palestiniens. Après, c'est pas la France qui va réussir à l'imposer, ça. C'est un truc beaucoup plus compliqué, bien sûr, quoi. Toute la fin de l'intervention est sur, c'est important, sur deux choses, la sécurité de nos compatriotes juifs, comme le président Macron l'a dit, c'est-à-dire les Français de confession juive qui vivent en France, qu'il faut évidemment protéger contre la violence, protéger contre l'antisémitisme, protéger contre la haine, protéger contre le harcèlement. Le président Macron dit qu'il a donné des consignes aux forces de l'ordre et à la justice pour que la main ne tremble pas et qu'on soit, j'ai noté les mots, impitoyable avec les porteurs de haine. Voilà, bon, bah ça c'est un message qu'il fallait passer. Et puis il finit sur un appel à l'unité des Français. Alors comme ça faisait un petit peu creux, ça sonnait un petit peu creux, un petit peu vide. Ah, il faut absolument que la France, que les Français restent unis en cette période compliquée. Non, là le président Macron évoque la crainte que beaucoup ont d'une importation de ce conflit en France, voilà, en raison de l'importance des communautés juives et musulmanes notamment. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas mille trucs, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas beaucoup d'infos. Pour moi, la plus importante, c'est l'idée de réaffirmer le droit des Palestiniens à avoir un État. Voilà. Bon, allez, je vous lis un petit peu, puis après je vous lis des journaux. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution du président Macron? Et puis qu'est-ce que vous pensez de mon analyse, qui est peut-être complètement à côté de la plaque? Moi, je suis là aussi pour parler avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, sinon ça sert à rien. Tom 49 As, merci pour le 8e mois. Axel Nico, merci pour le 7e mois. Mistaine Jolie, merci pour le 9e mois. Snivel 75, merci pour le 7e mois. Zarzo Tori, merci pour le Prime. Mongâtre TV, merci pour le 23e. M the North pour le 2e. Kodama pour le 5e. Vous régalez, hein, merci. Hein. Vous allez finir par me rembourser les frais du truc. Vous êtes des fous. Eat More Toast, avec j'espère de la marmelade, merci pour le Prime. Valworking, Fubinix, vous êtes formidable. Alors, votre analyse à vous. Je pense que c'est plus compliqué, Clara. Clara dit, colère, je pense qu'au-delà du conflit, Macron s'en fout des musulmans, Israël a bien plus de poids dans l'économie mondiale, alors on soutient les blancs, c'est dégueulasse. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Sir Lewis, Macron comme d'hab parle pour rien. Il a, je suis d'accord avec toi, il a pas dit grand chose. En 11 minutes, il dit des trucs. Mais moi, j'aurais voulu que ça dure une demi-heure, quoi. Voilà. Et qu'il annonce, je sais pas, une initiative. Qu'est-ce qui nous aurait un peu hypé là, qui m'aurait hypé en tant que journaliste? Ben, que le président Macron nous annonce à ce soir qu'il avait pris une initiative diplomatique. Et que des alliés, que, je sais pas, comme l'Union européenne ou les Allemands, les Italiens, les Américains, lui aient dit ouais, banco, formidable, on ne peut pas laisser la situation comme ça, il faut absolument relancer le processus de paix israélien, initiative de la France qui est formidable, on fait ça quoi. Bon, je rêve un petit peu quoi. Ça nous aurait hypé quoi. Bon, il n'y a pas ça. Bon, en même temps, c'est samedi, dimanche, lundi, mercredi, jeudi, 5 jours après les attentats du Hamas, donc peut-être que je suis un petit peu exigeant, quoi. Mais voilà, ça nous aura épais, quoi. Alors, ça, c'est un débat. Vous savez, ça, c'est une question que je vais poser à mes invités demain soir dans l'hebdo Étienne. Il y a Kiki Feyer qui dit si le Hamas est une organisation terroriste, à juste titre, et tu as raison, le gouvernement israélien est tout autant terroriste. Voilà. Vous avez suivi ce débat dans l'actualité. Les frappes de l'armée israélienne contre Gaza, qui tue des centaines de civils, est-ce que ce sont des actes terroristes ou est-ce que ce sont des crimes de guerre? Dans les deux cas, ça ne le fait pas, quoi. Mais quel est le qualificatif? Tiens, j'ai un article là-dessus d'une juriste, une femme qui s'intéresse au droit et qui dit ben, les termes ne sont pas innocents et elle dit ben, le problème, c'est le terrorisme, c'est un concept un peu flou, beaucoup de gens y mettent ce qu'ils veulent, au moins crime de guerre, c'est clair, et puis on peut être poursuivi pour les crimes de guerre. Enfin bref. Pas tout compris. Mais c'est une question que je poserai à mes invités demain parce que je me la pose aussi. Je me la pose cette question. Je me pose cette question comme beaucoup d'entre vous. Et je n'arrive pas à me faire mon opinion là-dessus. Je la poserai à mes invités. Elle n'est pas facile. Intéressant l'analyse de Loli Lol. Il a raison, un, de vouloir éviter l'importation du conflit, deux, de protéger les Juifs de France, mais en étant aussi déséquilibré dans sa prise de position, son discours est contre-productif. Marine, et vous êtes plusieurs à m'en parler, écrit les manifestations pro-Palestine sont autorisées dans tous les pays sauf la France, c'est une honte. Je m'arrête là-dessus parce que je n'ai pas vu d'article dans la presse ces derniers jours là-dessus, alors que j'ai bien vu pourtant qu'il y avait des manifestations qui avaient été interdites, c'est ça? Voilà. Mais alors qui avait appelé ces manifestations? Quels ont été les motifs pour les interdire? J'avoue que moi c'est un sujet que je n'ai pas creusé. Mais que je me... Voilà. J'ai un article du Point il y a une heure, là. Hop, regardez. Manifestations pro-palestiniennes dans plusieurs villes, malgré leur interdiction. Elles ont bien été interdites. Plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés jeudi, là, aujourd'hui, en début de soirée, place de la République à Paris, en soutien aux Palestiniens, malgré l'interdiction. Donc la manif a été interdite. On me dit qu'il y a même une manif pro-palestinienne en ce moment à République. C'est Diaolo Lemant qui me le dit. Ben c'est celle-ci, c'est la manif dont parle le Point, hein, place de la République. Donc, une manif en cours, alors qu'elle a été interdite. Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Dans le centre de Rennes, un rassemblement également interdit a réuni une cinquantaine de manifestants. À Bordeaux, une centaine de personnes. Voilà. À Bordeaux, la manif n'était pas interdite. La manif de mercredi était interdite à Bordeaux. La manif de jeudi n'était pas interdite à Bordeaux. Le ministre de l'Intérieur, on va essayer de comprendre. Gérald Darmanin a ordonné l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Voilà la motivation du gouvernement. Donc, le risque de susciter des troubles à l'ordre public après l'attaque perpétrée par le Hamas. Le ministère de l'Intérieur qui a indiqué que les organisateurs de ces manifestants et les fauteurs de troubles seraient interpellés. Quelques mots d'ordre des manifs là que vous lisez avec moi, à Paris notamment, place de la République. En ce moment, me disait quelqu'un dans le chat, Palestine vaincra, Israël assassin, Macron complice, sioniste, sioniste, vous êtes des terroristes. Alors, rassemblement interdit mardi à Paris, et c'est de ça dont certains me parlaient dans le chat ces derniers jours. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait interdit mardi ce rassemblement à Paris, prévoyant qu'il serait le théâtre d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juif, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient. Donc là, les autorités nous disent qu'elles soupçonnaient les rassemblements à venir d'être davantage des rassemblements anti-juifs, pour ne pas dire antisémites, incitant à la haine raciale, faisant l'apologie des attaques terroristes, donc faisant l'apologie des attaques du Hamas perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient et pas des manifestations pour soutenir le peuple palestinien. Le peuple palestinien dans son histoire dans le conflit israélo-palestinien et le peuple palestinien aujourd'hui avec les frappes contre la bande de Gaza. Bon, ça c'est l'analyse des autorités. Moi c'est clair. La justice, le tribunal administratif de Paris a été saisi et a décidé de maintenir l'interdiction. Voilà. Que dit la justice? C'est intéressant. Le juge des référés a invoqué un contexte d'une extrême violence et les risques avérés de l'exportation de cette violence sur le sol national. Notamment du regain d'actes antisémites. Du côté des organisateurs, les réactions, ces manifestations donnent un débouché politique à une colère qui veut s'exprimer. Il est important que l'on puisse porter cette voix. Il est grand temps, dit encore M. Bertrand Elbron, qui est le président de l'association France-Palestine Solidarité, et de la Il est grand temps que la France se reprenne un peu et sorte de ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël, dit-il encore. Ok, voilà. GG au point, parce que cet article sur l'interdiction des manifs pro-palestiniens en France est quand même super clair. C'est pas toujours aussi carré sur un sujet aussi compliqué. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet article, mais c'est quand même très clair. Star Moon, merci beaucoup pour le message que je suis en train de lire. Oui, bien sûr. Merci pour le troisième mois d'abonnement. Je vous lis le message de Star Moon qui renvoie aussi à la difficulté que j'ai à organiser cette hebdo Étienne de demain soir. Star Moon qui écrit: ça m'a l'air tellement une pelote de laine, c'est tellement hyper dur d'avoir une pensée claire sur ce sujet, surtout que le piège est de prendre parti d'un côté ou de l'autre. C'est un sujet éminemment compliqué. Je vous le disais en organisant mon hebdo Étienne de demain soir, vous savez j'aime bien mélanger des journalistes, des créateurs de contenu, inviter des youtubeurs, des streamers. Je me suis très vite rendu compte en fait que je les mettais en difficulté parce qu'en fait les créateurs de contenu, alors sauf exception hein, j'ai pas vu les prises de position de chacun. Les créateurs de contenu en fait ont très très peur de prendre position parce qu'ils savent la violence que ça peut provoquer sur des endroits qu'ils fréquentent énormément, que sont les réseaux sociaux quoi. Bon, j'ai eu des gens que j'ai souhaité inviter, des gens charmants qui m'ont dit: Samuel, je ne peux pas venir, j'aimerais pouvoir m'exprimer sur ce conflit, j'ai une opinion, j'ai un avis, mais je ne peux pas. La prise de risque pour ce qui est mon travail de créateur de contenu au quotidien est trop importante. Je vais prendre tellement cher, quoi. J'ai des créateurs de contenu qui m'ont dit ça. J'ai aussi des créateurs de contenu qui m'ont dit, notamment un qui était calé et qui m'a surpris, qui m'a dit la même chose. Quelqu'un qui était assez directement concerné par le sujet, en disant: moi ça fait 20 ans que j'évite de parler de ce sujet, je me suis toujours dit que je ne parlerai jamais publiquement, médiatiquement de ce sujet, et cette personne m'a dit je vais venir, tant pis, espèce d'acte de courage ou d'inconscience, je ne sais pas, tant pis, et je viens et je vais en parler chez toi. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, sur le coup, ça m'énervait de voir que les gens ne voulaient pas venir et tout, parce que je me suis dit, merde, pour le débat, tout ça, si, c'est intéressant quand même. Puis, ça, puis bon, c'est du boulot de caler des gens, puis des gens qui, dans un premier temps, te disent, ok, je viens, et puis finalement, qui te rappellent, qui disent, non, Samuel, ça fait deux jours que je réfléchis là-dessus, non, je peux pas venir. Donc, quand tu programmes comme moi, c'est compliqué, quoi. Et pourtant, ça m'a fait réfléchir, et j'ai dit, bah ouais, quand même, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, et personne ne doit être obligé de prendre position là-dessus. Voilà. J'ai vu des gens qui interpellaient Squeezie, par exemple, et qui disaient « Alors Squeezie, c'est fou ça, Squeezie n'a pas pris position sur le conflit israélo-palestinien. » Mais pourquoi il serait obligé de prendre position, quoi ? C'est à partir du moment où tu es, je sais pas, où tu es un passionné de jeux vidéo avec une grosse commu, je parle pas de Squeezie, hein, mais en général, il faudrait que tu donnes ton avis forcément sur tous les sujets. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais non, mais pourquoi ? Il a le droit de le faire et il a le droit de se taire. Voilà. C'est mon sentiment là-dessus. Voilà. Squeezie ou n'importe quel autre créateur de contenu ou influenceur, vous appelez ça comme vous voulez, c'est son droit de, en tant que citoyen, de prendre position, d'en parler ou de ne pas en parler. Voilà. Et donc, j'ai pris cette décision, finalement, de dire à la personne qui voulait quand même venir au risque de fâcher une partie de sa communauté et de provoquer une belle sauce comme Internet a le secret, ou c'est qu'il y a des gens qui voilà, je sais pas, est-ce que c'est un mal-être, est-ce que je vois dont c'est le job à temps plein, hein, de provoquer des polémiques publiques, des sauces comme ça. Bon, bah, c'est, je sais pas, c'est pas très bon pour le karma à mon avis, mais les gens, c'est un peu le taf. Et j'ai dit à cette personne, je dis, non, viens pas, ne viens pas. Ne prends pas ce risque, en fait. Pas pour une émission, quoi. Non. Et du coup, j'ai invité full journaliste. Parce que bah, nous, c'est notre métier, et puis que du coup, il n'y a pas de polémique. Les gens savent qu'on se penche sur l'actualité, c'est notre métier depuis tout le temps. Voilà. Et donc, voilà. Alors, Mimi Hegel, c'est différent parce qu'elle est youtubeuse, mais c'est une ancienne journaliste. Voilà. Donc elle est youtubeuse, créatrice de contenu, mais elle est journaliste. Hein. Elle a été rédactrice en chef d'un magazine, donc c'est 100% une journaliste, mais elle est devenue aussi youtubeuse. Michael Sadlowski, c'est le directeur de la rédaction du Huffington Post, le Huff Post, excellent site d'internet. Julien Pain, journaliste, France Info. Julien Pain, spécialiste de la lutte contre les fake news à France Télévisions, à France Info. Et Thierry Moreau, journaliste, voilà, dont j'aime le calme, la sérénité sur les sujets les plus compliqués. Voilà. Et puis à gauche, c'est bon, il ne sait plus trop ce qu'il fait, journaliste, streamer, youtubeur, mais un petit peu journaliste aussi. Voilà, donc 100% journaliste, et là, je mets personne dans la sauce, quoi. Et en fait, ça me pose un souci, parce que la question est de savoir si dans les prochaines émissions, les prochaines hebdos, où on va sans doute encore parler du Proche-Orient, ben je vais devoir inviter quasiment que des journalistes, quoi. Voyez, vous comprenez, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là? Est-ce que voilà, dans une émission qui mélange et qui invite des créateurs de contenu, des youtubeurs, des streamers, on est d'accord que c'est compliqué de les inviter en ce moment. T'as raison, me dit GMX. Là, vous en avez pour 6 mois, me dit Redon. Bah, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous lis. Hein. Ce sujet est un oursin, je comprends. Non, qu'ils portent leurs balls, Go Vegan. Ils sont pas obligés. Ah non, bah non. Nursel me dit, bah sinon vous en parlez pas. Tu fais une hebdo Étienne où tu ne parles pas du Proche-Orient, mais c'est impossible. Quand on est journaliste comme moi, on peut pas passer un sujet comme celui-ci à la trappe, c'est impossible. C'est la négation de tout ce que je suis, de mon métier. Si un jour vous me voyez passer à l'as un sujet parce qu'il est parce qu'il va provoquer des tensions et des polémiques. Mais fuyez, quoi. Voilà. Désabonnez-vous, unfollow cette chaîne, demandez à Twitch de la fermer. Le journalisme, c'est parler de tout, même quand ça crée des polémiques. Et vous savez que sur ma chaîne, on parle de tout ça. Impossible, ce serait honteux en fait que je fasse ça. Honteux. C'est vrai, mais c'est triste comme constat. Je cède, JB. Ouais, je suis d'accord. Sage décision, me dit Greg, ça me fait plaisir, merci. Pascal Boniface, formidable, bien sûr. Mais c'est pas un streamer. Non, il y a Mule qui dit on peut en parler sans prendre position. Mais non, parce que le choix des... dans une émission où on parle pendant 3 heures, imaginons qu'on passe une heure sur le Proche-Orient, chacun va parler un quart d'heure, dans les mots que tu vas choisir, tu vas prendre position. Tu peux pas, c'est pas, on n'est pas au café du coin en train de parler du dernier match du PSG. C'est des sujets. Chaque choix de mots est un choix, en fait, est un regard sur l'actualité. Comme quand le président Macron l'a dit, dit une phrase qui me semble insuffisante sur les populations civiles palestiniennes. Oui, je peux inviter des artistes, oui, c'est vrai. Certains artistes n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort aussi, mais ils prennent le risque aussi de se couper d'une partie de leurs fans, hein, sur des sujets comme ça. Pourquoi l'Arménie passe à la trappe Afex ? Pas ici, hein, sur cette chaîne on a parlé du Haut-Karabakh et de l'Arménie beaucoup, hein, et on en reparlera, hein. Ok. Allez, je remercie les derniers subs, et puis je vais vous lire plein d'articles qui vont un peu nourrir notre réflexion là-dessus, éclairer notre réflexion, voilà, ce qui va nous permettre d'en parler et peut-être pas de nous faire des avis définitifs sur le sujet, mais de... Attends, je vois un message intéressant. Ouais, il y a Keren Han, qui est une artiste que j'aime bien, c'est Lag64 qui me dit Keren Han a exprimé sur Twitter son dépit de ne pas entendre plus les artistes sur le sujet. C'est intéressant. Voilà, des faits, des arguments qui vont nous permettre de nourrir notre réflexion sur le sujet. Badger52, merci pour le Prime. Kering18, merci pour la deuxième année d'abonnement. À quoi servent les écouteurs durant le stream? Bah, écouter les sons que j'envoie pour vérifier que c'est pas trop fort, trop bas. Écouter ma propre voix pour voir si il n'y a pas de souci. J'ai commencé mon métier en radio, donc je suis un petit peu maniaque sur le son. TTT de Kiwi, merci pour le 19e mois. Enkidu pour le Prime. Tom49As pour le 8e mois. Excel Nico, vous êtes formidable. Merci pour le soutien. On y va? On lit un petit peu les articles là-dessus pour avancer un petit peu sur le débat, parce que mon avis sur la question, c'est très bien et ça va pas bien loin. On va lire les articles. Est-ce que j'ai votre go? Est-ce que j'ai votre yes? C'est parti? Ok, c'est parti. Le monde retient son souffle. C'était la une du Parisien ce matin à propos de la bande de Gaza et de cette offensive terrestre qui a priori se prépare. Jusqu'où ira le Hamas? En fait, vous avez un dossier dans le Parisien de ce matin, les clés pour comprendre, c'est plein de questions auxquelles le Parisien essaie de répondre, des questions que vous posez peut-être. Comment Israël a pu se faire surprendre alors qu'ils sont censés avoir de super services secrets? Le blocus de Gaza, c'est quoi? Comment Israël prépare son offensive terrestre? Que vont devenir les otages? Voilà, je vais pas toutes vous les lire. Jusqu'où ira le Hamas? Ça, je trouve ça intéressant. L'organisation terroriste vise purement et simplement à détruire l'État hébreu, détruire Israël, ça c'est dans ses statuts depuis toujours, hein, c'est pas une surprise, tout le monde le sait. En massacrant de nombreuses personnes, en capturant d'autres, le Hamas a cherché, estime un géopolitologue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Frédéric Ancel, a cherché à provoquer une riposte foudroyante d'Israël, dont les images terribles de civils palestiniens tués imposeraient ensuite aux pays arabes de la région, aux chancelleries arabes, et notamment à l'Arabie Saoudite, de ne pas reconnaître Israël. Pause, je vous explique. Depuis quelques années, il y a un processus dans la région de reconnaissance de l'État Israël par les pays arabes, certains ayant eu des relations extrêmement tendues, voire ayant été en guerre avec Israël dans les années, les décennies passées. Ce sont les accords d'Abraham, est-ce que c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans le chat, je suis sûr que certains l'ont. C'est ça? Abraham, merci. Sous la houlette, je crois, notamment des États-Unis. L'Arabie Saoudite, qui est un pays extrêmement important dans la région, était sur le point de signer cette normalisation des relations avec Israël. L'analyse de certains, notamment de Frédéric Ancel, le géopolitologue, c'est que le Hamas, ne voulant pas de cette normalisation des relations entre les pays arabes de la région et Israël, a provoqué ces attentats pour provoquer en retour une réaction forte, violente d'Israël et de son armée Tsahal qui est en train de tuer et qui va tuer sans doute encore beaucoup d'autres civils et faisant dérailler cette tentative de rapprochement entre Israël et les pays arabes de la région. Ça, c'est l'analyse de Frédéric Ancel. Peut-être que c'est d'ailleurs une analyse qui est juste. Alors, Lolilol, tu vas être surpris de ma réponse. Il y a Lolilol qui écrit « Je sais que c'est conspirationniste, mais il est parfaitement possible d'imaginer que Netanyahou ait fait exprès de laisser le Hamas faire. » Alors, tu vas assez loin, parce que tu seras en train de dire « Mais pourquoi, comment se fait-il qu'Israël, avec ses services secrets, avec son armée, ait pu ne pas être au courant de la préparation de ces opérations terroristes massives ?» C'est une vraie question, il y a des articles là-dessus. Alors moi, je ne vais pas sur cette piste-là, mais en revanche, on va lire un moment un article qui dit que Netanyahou a laissé favoriser le Hamas, puisqu'il savait que le Hamas était un ennemi du processus de paix israélo-palestinien, et que Netanyahou, ne voulant absolument pas entendre parler d'un État palestinien, a favorisé le Hamas, notamment au détriment de l'autorité palestinienne. Ça n'est pas conspirationniste. Il l'a dit, Netanyahou. Il l'a dit publiquement que sa politique était de favoriser le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Il l'a dit. Il l'a dit. Voilà. Je vous lirai l'article et la citation tout à l'heure. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est le jeu des extrêmes, en fait. Des gens qui ne voulaient pas du processus de paix. Voilà où on en est aujourd'hui. De là à imaginer, comme tu le dis, que Netanyahou aurait pu être mis au courant, de ces actions terroristes à venir et ne serait pas intervenu pour provoquer tout ce qui suit derrière. Là, on va très très loin. Il semblerait qu'un pays voisin, l'Égypte, si je ne dis pas de bêtises, ait prévenu les autorités israéliennes de ce qui était en train de se préparer. Et l'analyse de certains sur ce sujet, c'est que l'armée israélienne et les services secrets... Comment s'appellent les services secrets? Oui, c'est l'Égypte. C'est ça, 4 jours avant. 3-4 jours avant. Comment s'appellent les services secrets israéliens déjà? Le Mossad. Et que le Mossad et Tzahal n'aient pas cru les sources égyptiennes, notamment, disent certains, on rentre dans la psychologie, dans une espèce de complexe de supériorité d'Israéliens se disant mais comment les Palestiniens, comment le Hamas serait-il capable de monter une opération aussi massive? Voilà. Là, on serait plutôt dans le complexe de supériorité, voire dans l'incompétence, comme le dit Flèche Azur, sans aller chercher le complot. Voilà, après... Je ne suis pas dans la tête de chacun. L'Europe peut-elle aider? Tiens, on va essayer d'espérer, on va essayer de rêver un petit peu. Est-ce que l'Europe peut aider à trouver une issue à ce conflit? Merci Mister Yugis pour le 8e mois et le gentil message. Le Viking moderne, merci beaucoup pour le 3e mois. Babder 52, merci beaucoup. Xirin aussi, merci beaucoup. Est-ce que l'Europe peut aider? À quelle heure l'allocution s'est passée, mon chouchou? C'était à 20h, mais tu l'as en replay. Tu l'as en replay gratuitement sur... si tu es abonné sur Twitch ou sur la chaîne YouTube. Est-ce que l'Europe peut aider en solidarité avec Israël et en défendant... Elle est belle cette phrase, écoutez. En solidarité avec Israël et en défendant les aspirations légitimes des Palestiniens à avoir un État, à avoir un pays. Eh bien, l'Europe peut faire entendre sa voix singulière pour la paix dans le cadre d'une négociation multilatérale. Par exemple, c'est ce qu'a dit le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade. Président Macron l'a un peu dit, mais de façon beaucoup plus allusive et beaucoup moins séduisante, je trouve. Si je puis me permettre, là, ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est le citoyen. C'est les mots que j'aurais voulu entendre dans la bouche du président Macron. Ça aurait été plus fort. Le président Macron, ce soir, donc à 20h, hein, puisqu'il a parlé 11 minutes, il a dit « Israël a le droit de se défendre, mais en protégeant les populations civiles, c'est le devoir d'une démocratie. » C'est-à-dire... voilà, il faut, c'est pas bien de tuer des civils, quoi. Et puis un peu plus tard, il a dit la lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix, avec deux critères: sécurité pour les Israéliens, État pour les Palestiniens. Voilà. Mais voilà, ça m'a semblé essentiel, mais un peu court. Cette phrase, elle est un petit peu plus ambitieuse. En solidarité avec Israël et en défendant les aspirations légitimes des Palestiniens, l'État peut faire entendre sa voix singulière pour la paix dans le cadre d'une négociation multilatérale. Voilà. On sent qu'il y a une espèce d'envie d'initiative diplomatique là, pour pas seulement faire un constat, mais dire « Allez, on y va, maintenant on le fait, quoi. On fait la paix. » C'est un député Renaissance qui dit ça. Difficile toutefois de voir comment l'Union européenne pourra accorder ses violons, vu que les pays sont déjà divisés sur la question de l'aide aux Palestiniens. Il y a des pays européens aujourd'hui qui disent « Allez, top, on cut l'aide aux Palestiniens.
C'est une aide financière, matérielle, qui de toute façon est détournée par le Hamas. Et donc, on va pas soutenir un mouvement terroriste. Puis il y a des pays qui disent, mais non. C'est un territoire, la bande de Gaza, qui est sous perfusion, qui est hyper pauvre, qui est sous blocus. Vous ne pouvez pas suspendre l'aide à la bande de Gaza. Ça va faire une catastrophe humanitaire. Donc, les pays sont divisés sur cette question. Donc, s'accorder sur la question de la relance du processus de paix au Proche-Orient, vous imaginez bien. Voilà. Donc, à la question de savoir si l'Union européenne peut aider la situation, la réponse pour le Parisien, c'est non. La France, parlons de nous. La France peut-elle influer sur le conflit ? Non, répond un fin connaisseur du dossier, explique le Parisien, estimant même que le président se situe dans le pur déclaratif avec un côté suiviste. Putain, le scud. Et pour ceux qui étaient avec moi qui ont écouté les 11 minutes de déclaration du président Macron, cette phrase, elle prend tout son sens, pardon, hein, je suis sévère là. Un fin connaisseur du dossier dit aux Parisiens, avant la déclaration du président Macron, là qu'on a écouté, le président se situe dans le pur déclaratif avec un côté suiviste. Sans être méchant, on n'est pas allé, le président Macron n'est pas allé très très au-delà là, tout à l'heure. Avec la politique arabe élaborée par le général de Gaulle, la voix de la France avait un créneau jusqu'à la présidence de Jacques Chirac, dit Bertrand Badi, hein, qui est un professeur à Sciences Po, mais poursuit ce spécialiste des questions internationales. Elle s'est peu à peu effilochée après le tournant opéré par Nicolas Sarkozy n'a jamais été rétabli. Il y a eu une parole originale, singulière, de la France. Je vous lirai un article là-dessus tout à l'heure, c'est essentiel. Entre De Gaulle et Chirac. Chirac, premier mandat, parce que deuxième mandat, il commence déjà à changer, sur effectivement une parole qui défendait les intérêts des Israéliens et des Palestiniens et qui appelait notamment très fortement à la création d'un État palestinien. Et après, c'est abandonné par les chefs d'État qui suivent. Voilà, ce discours singulier français par Sarkozy, par Hollande, par Macron. Voilà, on lira ce papier. Intéressant, ça m'a vraiment intéressé ce matin. De quel côté est le Qatar ? Un géopolitologue qui s'appelle David Kalfa résume d'une formule le double jeu du riche émirat gazier. Il y a le Qatar en anglais, qui abrite la plus grande base militaire américaine du Proche-Orient, qui organise la Coupe du Monde de football, qui achète le PSG, qui vend du rêve. Hein. Il y a le Qatar en anglais, puis il y a le Qatar en arabe, qui diffuse sur sa chaîne Al Jazeera la propagande du Hamas, qui abrite à Doha, au Qatar, son chef politique, le chef politique du Qatar, du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui vit dans des conditions très confortables à Doha, hein, faut le savoir, et distribue, toujours le Qatar, chaque mois à Gaza, 30 millions de dollars en petites coupures pour payer la police, pour payer les œuvres sociales, voilà, pour rendre le quotidien un peu plus supportable aux habitants. Cela se faisait d'ailleurs en parfait accord avec Israël, qui voyait un moyen de contenir le chaudron gazaoui, hein, de faire baisser un peu la pression. L'émirat, qui partage avec le mouvement terroriste palestinien l'idéologie, la même idéologie dite des frères musulmans, s'est érigé en parrain de Gaza. Donc quelqu'un se demandait pourquoi on parle du Qatar, parce qu'ils sont érigés en parrain de Gaza. À la fin des années 2000, y voyant un moyen d'asseoir son prestige dans le monde arabe, d'apparaître comme les protecteurs du peuple de Gaza. Voilà. Mais le Parisien estime qu'il y a un double discours. Pourquoi, essentiel aussi, l'ONU semble si impuissante ? Le Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est l'organe décisionnel des Nations Unies, s'est réuni dès dimanche soir, au lendemain des attentats, au siège de l'ONU à New York. Qui en a entendu parler ? Demande le Parisien. Rien de concret n'en est sorti. Le droit de veto des 5 membres permanents annule toute possibilité de résolution. Washington, grand allié d'Israël, bien sûr, vous le savez, bloque toute décision contraignante à l'égard d'Israël. Par exemple, la résolution 242, qui date de 1967, et exigeant un retrait des territoires occupés palestiniens, n'a jamais été appliquée, parce qu'il y a veto. Il y a veto américain. Enfin, achève Badi, donc le spécialiste des questions internationales, là, l'ONU souffre de la sous-représentation du Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, ces pays qui n'ont de cesse de dénoncer le double standard pratiqué par les Occidentaux, qui invoquent le droit international, mais seulement quand ça les arrange. Voilà. Donc, waouh, tableau super pessimiste. Hein. Est-ce que l'ONU peut faire quelque chose? Non, c'est bloqué. Est-ce que l'Europe peut faire quelque chose? Bah non, ils ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que la France peut faire quelque chose? Non. Voilà. En tout cas, pas la France avec la position sur le sujet depuis Nicolas Sarkozy. Waouh! Voilà. Donc, les perspectives ne sont quand même pas très réjouissantes. Peut-être que dans quelques lignes de quelques papiers, à un moment, on va voir des petites lueurs d'espoir. On va voir. Peut-être. Je ne sais pas. Tirez le corps, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Merci. Merci du soutien. On va y revenir. Hein. Quelqu'un me dit, mais c'est quoi la position de Sarkozy? J'ai un article là-dessus. Qui est où? Qui est un peu plus loin. J'ai plein d'articles. Hein. C'est tellement important de parler de ce sujet. Est-ce que c'est dans l'Huma? Peut-être dans l'Huma, je ne sais plus. Ouais! L'humanité, oui, c'est loin. Hein. 60 ans d'évolution de la France sur le conflit au Proche-Orient. L'UMA, un traitement de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient qui est vraiment bien fait. Bon, tous les journaux font du bon boulot, mais l'UMA me surprend assez en ce moment. On enchaîne avec la souricière de Gaza. Dans le Parisien, toujours. Plus de 2 millions de civils palestiniens, ça c'est ce qui se passe à Gaza, sont pris au piège, sans issue, ni moyen de protection, alors qu'un déluge de feu tombe sur la ville et qu'une opération terrestre de l'armée israélienne se dessine. On va parler des victimes israéliennes aussi, on va parler des massacres, hein, on va parler de ce qu'on est en train d'apprendre. Hein. On parle des exactions, des crimes, des deux côtés ici. Hein. Hein. Là, c'est un coup de projecteur sur Gaza. Il y a une semaine, l'horizon étroit de Gaza butait entre la mer d'un côté puis le mur de séparation avec Israël de l'autre. Désormais, la prison à ciel ouvert où vivent plus de 2 millions de personnes s'échangeait en cellules individuelles. Pourquoi le Parisien dit ça? Parce que les Gazaouis sont forcés de rester chez eux, à attendre. Tandis que se poursuivent les frappes lancées en réponse aux attentats, l'assaut a fait 1200 morts côté israélien, côté palestinien, 1055 personnes ont perdu la vie, d'après le décompte des autorités de Gaza, bilan qui risque de s'alourdir alors que se prépare une offensive terrestre du côté d'Israël. Les drones qui quadrillent le ciel au-dessus de la bande de Gaza montrent quoi? Aujourd'hui, vous avez des images, là. Je ne sais pas si j'ai des vues de Gaza, là. Je crois que j'ai des vues de Gaza. Ouais, on voit. Je ne sais pas si vous voyez, là. Enfin, ça, c'est une rue de Gaza aujourd'hui, ça. Pas si on a des vues aériennes. Là, on nous a kibbutz, par contre, on nous a kibbutz qui a été frappé. Là, on a une vue un petit peu, là. Ça tape de partout. Donc, je reviens à la souricière de Gaza. Donc, le bilan vient d'en parler. Les drones qui quadrillent le ciel montrent des quartiers entiers réduit en poussière, d'où émergent des squelettes d'immeubles déchiquetés. L'enclave rassemble une des plus fortes densités de population au monde. Littéralement, pris au piège d'une souricière, les gens fuient à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils ne peuvent pas sortir. La frontière avec l'Égypte au sud est fermée. On verra pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Mais la frontière avec l'Égypte, elle est fermée. Il n'existe pas de bunker, il n'existe pas d'abri où se protéger des bombes. Sur une vidéo diffusée par la chaîne Al Jazeera, on voit la panique s'emparer de la rue hein, quand ça frappe. Le blocus total décrété lundi par Israël est contraire au droit international, l'a dit l'ONU. Israël a coupé les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. Ça sert à quoi de frapper tous ces civils, me demande Tib 1903 dans le chat. Alors, l'armée israélienne tue actuellement des civils, pas pour tuer des civils. Ce sont des frappes qui visent les combattants du Hamas. Mais la densité est telle que, en fait, les victimes collatérales, le mot est affreux, sont gigantesques, en fait, quoi. Voilà. Donc on parle d'à peu près 1000 morts au total, qui sont évidemment pas 1000 militants du Hamas. Et dans ces victimes, vous avez des hommes, des femmes, des enfants, des civils. Voilà. Près de 260 000 Gazaouis ont fui leur logement, détruit ou par crainte de prochaines frappes. Les dortoirs de fortune fourmillent d'enfants. Près de la moitié de la population, quelqu'un le rappelait dans le chat il y a un instant, la moitié de la population gazaouie a moins de 18 ans. La moitié des habitants de Gaza ont moins de 18 ans et n'a jamais connu d'autre quotidien que celui des guerres intermittentes entre le Hamas et Israël. Ce sont des gens dont la vie n'a été que ça, quoi. Entre adultes, puisque là on parlait des enfants, les conversations tournent autour de la stratégie adoptée. Certains cherchent à partir à tout prix, hein, bien sûr, mais le seul point de passage vers l'Égypte, par le check-up de Rafah restait mercredi fermé. On ne peut pas sortir aujourd'hui de la bande de Gaza. Voilà. Donc les Israéliens disent « Ah mais on prévient quand il y a des bombardements, on prévient sur les réseaux sociaux, on dit que ben, on va taper tel immeuble, tel quartier, il faut partir », ce qui est partiellement vrai, sauf qu'il faut avoir le temps de partir de l'immeuble, il faut avoir le temps de partir du quartier, et pour aller où ? Puisque la bande de Gaza est fermée. Voilà ce que vivent aujourd'hui les Gazaouis. Bon, là, on a un édito qu'on a déjà lu sur « Trouver le bon ton », c'est-à-dire qu'allait dire le président Macron, que pouvait dire le président Macron ce soir. C'est marrant parce qu'on l'a lu avant, on peut peut-être le relire rapidement après. La fin de l'article du journaliste qui l'a écrit, donc avant l'allocution, c'était « Ce jeudi, le président Macron entend reprendre la main ». Dans une allocution où chaque mot sera pesé au trébuchet, exercice d'équilibriste. Pour le coup, c'est vrai que on a vu que le président Macron, donc le message était enregistré, était clairement pas en direct. Chaque mot était effectivement pesé au trébuchet, comme dit le Parisien, et qu'il n'y avait pas beaucoup de prise de risque, quoi. Bon, on a trouvé ça. Enfin, on a trouvé. Vous trouvez ça comme vous voulez. J'ai trouvé ça un peu tiède. Qui suis-je pour qualifier un discours d'une allocution du chef de l'État d'un peu tiède, mais j'ai trouvé que ça manquait de souffle. Justement, quel enchaînement de champions. Alors, voilà, ça ce n'est que mon sentiment. Il y a Devenetta qui dit, moi j'aurais dit neutre plutôt. Neutre. Macron en quête d'unité nationale, peut-être que l'article du Parisien va nous éclairer justement sur cette allocution très prudente du chef de l'État. Ce jeudi, le chef de l'État a reçu, c'était à la mi-journée je crois, les chefs des partis politiques, avant une allocution solennelle le soir à la télévision, vous l'avez écouté avec moi, face au risque d'importation du conflit, il devrait appeler les Français à faire bloc. C'est vrai que toute la fin de l'allocution du président, le président, le chef de l'État, a appelé les Français à l'unité. Quelques déclarations à Hambourg, un tweet, ce n'est rien de dire qu'Emmanuel Macron est resté en retrait depuis qu'a éclaté la guerre au Proche-Orient. Il faudrait qu'on le voit un peu plus, soupira un député Renaissance mardi. C'était avant que le président change de braquet, décidant de réunir tous les chefs de parti pour évoquer la situation, avant de s'adresser aux Français lors d'une allocution solennelle qui a eu lieu à 20h. Avec en toile de fond un scénario noir redouté par l'exécutif, l'importation du conflit. Également convié ce midi les présidents de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Voilà. La quête de l'unité nationale, elle est aussi ici. Israël en ordre de bataille, c'est Libération qui se penche sur les préparatifs d'une offensive terrestre de Tsahal, de l'armée israélienne contre la bande de Gaza, qui pose énormément de questions. La première, c'est est-ce qu'elle va se dérouler, hein. Certains médias sont catégoriques. Il va y avoir une offensive terrestre avec des dizaines de milliers, peut-être 200 000 hommes, 200 000 soldats israéliens dans la bande de Gaza. Certains médias français sont catégoriques et d'autres disent mais on n'est pas sûr, on n'est pas, peut-être, on verra. Préparatif, c'est l'édito de Dovalfon qui est quelqu'un qui écrit de très bons éditos dans Libération. Quelqu'un me dit mais comment ça importer le conflit? En fait, quand on dit importer le conflit, c'est l'idée que en fait, les tensions au Proche-Orient puissent se retrouver au sein de la société française entre notamment les communautés juives et musulmanes de France. Importer le conflit, c'est ça. Ça s'est déjà vu dans l'histoire de notre pays, hein, des conflits internationaux qui provoquaient des tensions chez nous. Importer le conflit, c'est ça. Préparatif. Édito de Dovalfon. L'offensive terrestre de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, qui paraissait samedi n'être qu'une ultime possibilité, semble être devenue inévitable. Après la découverte de l'étendue des massacres perpétrés par le Hamas sur des civils, dont de nombreux enfants, l'opinion publique israélienne est chauffée à blanc exactement comme l'espéraient les terroristes. Après le carnage à, vous savez, à la fête avec les jeunes, la rave party. Immédiatement relayé samedi par les vidéos prises par les assaillants, ce sont les assaillants eux-mêmes qui ont diffusé sur Internet leurs actions terroristes. Les vidéos prises par les assaillants, les Israéliens ont pris connaissance jour après jour d'autres massacres, hein, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, perpétrés dans les kibboutz et les communes du Negev en plein territoire israélien. Nul, écrit Dovalfon dans Libé, nul ne pourra maintenant arrêter le déferlement des tanks. Les États-Unis sont entrés en période électorale. La Chine n'a aucune influence politique dans la région. L'Europe est profondément divisée, je vous le disais. La Russie s'attend à en bénéficier. Quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que peut faire la Russie ? Mais la Russie, le président Poutine, lui, il trouve ça formidable. Enfin, pardon. Les yeux se sont détournés de la guerre en Ukraine, vous l'avez remarqué. Hein, les médias ne parlent pas de la guerre en Ukraine en ce moment, donc peut-être que ça arrange le président Poutine aussi. Bon. Donc, en gros, Libération nous dit personne ne va intervenir, quoi. La théorie selon laquelle une invasion de Gaza, un véritable labyrinthe de ruelles densément peuplées cachant un immense réseau souterrain piégé, bunkérisé, serait donc trop coûteuse en vie humaine pour l'armée israélienne, eh bien cette théorie, qui est sans doute vraie, s'est effondrée après le bilan vertigineux des morts israéliens cette semaine. Ce que Libé nous dit, c'est que finalement, juste après les attentats, Israël n'était pas forcément sûr de lancer cette offensive terrestre, mais qu'au fur et à mesure des jours et du bilan qui s'alourdissait et des images filmées par les terroristes eux-mêmes, où on les voit tuer de sang-froid des familles entières, des femmes, des enfants, et les exactions qui ont été découvertes, kibbutz, c'est la phrase écrite un peu plus haut, l'opinion publique israélienne est chauffée à blanc. Dans un article un peu plus tard, j'ai lu journaliste qui disait, aujourd'hui, Netanyahou, il n'a pas le choix. Vu l'état de l'opinion publique israélienne, Netanyahou, qu'il souhaite ou pas l'offensive terrestre qui va coûter énormément de vies aux soldats israéliens et encore plus aux civils palestiniens, il n'a pas le choix, son opinion publique ne comprendrait pas. Okay. Quel en serait le but ? Quelqu'un me disait, mais quel intérêt de lancer une offensive terrestre contre la bande de Gaza ? Quelqu'un me posait la question il y a 2 minutes. Quel en serait le but ? Que ce soit une campagne pour affaiblir le Hamas ou une occupation prolongée destinée à anéantir le Hamas qui veut anéantir l'État d'Israël. C'est principalement la population civile de Gaza qui en paiera le prix. Car toute offensive terrestre sera précédée d'un tapis de bombardements aériens, forcément aveugle. Les deux opposants principaux aux accords d'Oslo, Ismaël Haniyeh, qui est le chef du Hamas, et Benjamin Netanyahou pour le Likoud, se retrouvent maintenant dans ce face-à-face inexorable, que leurs propres actions ont engendré. Cette phrase, elle est essentielle pour comprendre ce qui se passe. Les deux opposants principaux aux accords d'Oslo, ceux qui ne voulaient pas de la paix, du processus de paix, le Hamas et Netanyahou, hein, qui incarne la droite, très à droite en Israël, eh bien ces deux opposants aux accords de paix se retrouvent maintenant dans ce face-à-face qu'ils ont eux-mêmes provoqué. L'un est dans son asile doré du Qatar, le chef du Hamas qui est tranquillou à Doha. L'autre dans sa villa fortifiée de Césarée. Donc eux ne vont pas vivre ce conflit, ces bombardements dans leur chair. Leur famille ne va évidemment pas être frappée. Et Dov Alphon, qui est quelqu'un qui écrit très bien, je vous le disais dans Libé, conclut, Jean Giraudoux nous avait prévenu: le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. Waouh. C'est dingue. Hein, voilà. Excellent édito. Continuons. Avec un coup de projecteur sur la difficulté de cette opération terrestre qui va être meurtrière. Malgré la supériorité technologique de Tsahal face au Hamas, l'invasion s'annonce périlleuse. Les forces en présence. L'armée israélienne, technologiquement extrêmement dotée, de nombreux hommes, 300 000 réservistes mobilisés ces derniers jours pour prêter main forte aux 170 000 militaires d'actifs. Vous avez presque 500 000 soldats israéliens qui sont mobilisés aujourd'hui. Un demi-million d'hommes et de femmes d'ailleurs en Israël en armes, même si en général les femmes ne sont pas envoyées directement sur le front. Les terroristes du Hamas, alors Libération donne la parole à des soldats israéliens justement qui sont mobilisés là, donc ce sont des soldats israéliens qui parlent. Les terroristes du Hamas sont des animaux, il n'y a pas d'autre mot, jamais ce pays n'a été confronté à de pareils crimes, dit un soldat israélien. Un autre israélien, 56 ans, vétéran des forces spéciales, dit, ça aussi c'est intéressant, cette attaque est un tournant historique pour notre pays. l'équivalent d'un 11 septembre couplé à un Pearl Harbor. Si Netanyahou ne donne pas l'ordre d'assaut sur Gaza, il perdra son poste dans l'heure. C'est ce que je vous disais. L'opinion publique israélienne, qui est en état de choc aujourd'hui, ne comprendrait pas. Et ce vétéran des forces spéciales dit, je le dis en tant qu'électeur de gauche, ça n'est pas un soutien de Netanyahou, c'est un électeur de gauche qui dit, je ne comprendrais pas que Netanyahou ne donne pas l'ordre de l'offensive contre Gaza. Un peu plus loin, il y a des jeunes réservistes. Vous savez que quelqu'un me rappelait dans le chat qu'il y a un service militaire en Israël. C'est plus qu'un service militaire en Israël. C'est d'abord, il est fait par les hommes et les femmes. Il est long. Et puis après, il y a des périodes de réserve. C'est-à-dire que vous devez des périodes de réserve à l'armée israélienne. Pourquoi ? Israël, c'est un État, c'est un pays qui est en guerre depuis toujours, depuis sa création en 1948. Hein ? Guerre israélo-arabe. C'est un État en guerre non-stop, avec des petites périodes de pause. Mais, hein, donc, vous avez... une nation qui est aussi en état de guerre permanent. Quoi. D'où l'importance des réservistes. Donc Libé est allé voir des jeunes réservistes. Plusieurs d'entre eux font partie de la jeunesse branchée de Tel Aviv. Ce ne sont pas des professionnels, des militaires professionnels. Deux ingénieurs en start-up, un employé d'une marque de luxe française, un scénariste de télévision, hein, un contrôleur de gestion. S'il faut envahir Gaza, disent ces jeunes gens, nous le ferons sans rechigner. Mais l'assaut ne doit cibler que le Hamas, dit ce jeune militaire, pas les Palestiniens dans leur ensemble. J'espère que nous parviendrons à épargner un maximum de civils, dit ce jeune militaire. Voilà. Un souhait aux accents de vœux pieux écrit Libération qui n'y croit pas beaucoup. Pour la seule journée de mardi, 450 frappes ont été conduites par les avions de Tsahal. 1055 Gazaouis auraient été tués depuis le déclenchement de l'offensive du Hamas et plus de 5000 autres blessés. Ça, c'était ce matin, à l'heure où on parle, c'est sûrement plus. Au moins 260 000 personnes ont dû quitter leur logement et le tapis de bombes, on est persuadé de Libération, devrait bientôt laisser place à un assaut terrestre. Merci Marc Counet Premier pour le troisième mois, Caquetus pour ce soutien, Thierry Le Corps pour le 11e mois, merci beaucoup du soutien. Je vais à la fin de l'article de Libé. Et après, on va lire une interview passionnante d'un spécialiste des questions diplomatiques qui, en fait, va nous dire que l'offensive terrestre israélienne, c'est exactement ce que souhaite Gaza.
Waouh !
L'ordre d'assaut semble imminent, nous dit Libé. Les réservistes plus âgés, coutumiers des appels sous le drapeau, savent la difficulté tactique que représente une incursion terrestre dans la bande de Gaza. La dernière opération de grande ampleur en 2014... c'était soldé par plus de 60 morts et 500 blessés dans les rangs de l'armée israélienne. C'est de la guérilla urbaine qui nous attend. Les blindés ne sont qu'une faible utilité dans un pareil environnement, d'autant que le Hamas semble beaucoup mieux entraîné et équipa. Ce que veut Gaza, ce que veut le Hamas, bien sûr. Je vais fourcher, merci de la correction. Le Hamas semble beaucoup mieux entraîné et équipé qu'autrefois, dit un officier d'infanterie israélien. Prendre les rues de Gaza, c'est une chose, mais il y a une deuxième ville, sous terre, formée d'un dédale terrifiant de tunnels remplis de pièges. Le vrai défi militaire d'une potentielle invasion, c'est ça en fait. Tâche dantesque, rendue encore plus compliquée par le bouclier humain du Hamas, puisque l'organisation terroriste détiendrait actuellement 150 otages kidnappés en Israël. La parole enfin à un ancien officier du renseignement israélien qui est devenu chercheur, qui dit « Si le nouveau gouvernement israélien décide de se débarrasser du Hamas une bonne fois pour toutes, Tsahal, l'armée, a les moyens de le faire. Ce sera long et compliqué, mais le rapport de force est largement en notre faveur. Le vrai risque, c'est de soumettre Gaza sans offrir ensuite de perspective politique à ce conflit. Une invasion, d'accord, dit cet ancien... membre des services de renseignement, mais que proposons-nous ensuite aux Palestiniens ? Il faut bien avoir conscience que la société israélienne, sur toutes ces questions, elle est divisée. Vous avez depuis toujours une partie de la population israélienne qui est en faveur d'une paix avec les Palestiniens et plus largement avec les Arabes, et vous avez une partie de la population israélienne qui y est opposée. Là, par exemple, vous avez un ancien membre des services de renseignement qui dit taper le Hamas, détruire le Hamas, oui, certes, on en a les moyens, bon, avec les victimes collatérales que vous imaginez, mais encore faut-il après avoir quelque chose à proposer aux Palestiniens pour qu'un jour, enfin, la région puisse vivre en paix, quoi. Alors, vous avez un spécialiste là, qui s'appelle Pierre Razou, qui est directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, qui dit, en fait, le Hamas, c'est exactement ce qu'il cherche. Cherche à attirer Tsahal dans ce piège d'une guerre urbaine. Un assaut massif de la bande de Gaza par Tsahal serait extrêmement coûteux pour Israël et pour la population civile. Netanyahou a jusque-là toujours évité le conflit avec le Hezbollah et l'Iran et procrastiné, remettre au lendemain, avec le Hamas. C'est ce que nous dit ce spécialiste. L'opinion publique sidérée aujourd'hui lui demande des comptes et il peut être tenté de répondre par un assaut massif. Attirer l'armée israélienne dans le piège de la guerre urbaine est probablement ce que souhaitent ardemment les stratèges du Hamas. Alors, j'ai parlé de 450 000, presque un demi-million de soldats actuellement mobilisés du côté israélien. Du côté du Hamas, on estime qu'il y a 35 000 hommes. Voilà. Alors, 450 000 d'un côté, 35 000 de l'autre, mais qui sont sur leur territoire, sur leur terrain. On estime que le Hamas a préparé des môles de résistance, des pièges à tous les niveaux, dans les rues, dans les bâtiments, dans les souterrains, sur les toits, possède un stock d'armes, d'explosifs, de munitions qui pourraient lui permettre de tenir un très long moment. Statistiquement, pour avoir une chance de prendre le contrôle de Gaza, on estime que l'armée israélienne devrait envoyer au moins 200 000 soldats, soit environ 40% de Tsahal réservistes. Compris. Réservistes compris, c'est-à-dire c'est des gens qui sont boulangers, qui sont ingénieurs, qui sont charpentiers et qui sont rappelés en réserve et qui vont aller se battre et pour certains perdre leur vie, quoi. L'objectif, alors, ce serait quoi? Comment ça se passerait? De découper la bande de Gaza en tronçons hermétiques et de neutraliser les points névralgiques, quoi, mètre après mètre. Des chars seraient posés sur les avenues, au carrefour. Des unités mécanisées d'infanterie créeraient des brèches pour entrer dans les bâtiments, pour entrer dans les tunnels. Les fantassins seraient déployés de nuit, par hélicoptère, sous protection des drones, de l'aviation de combat, vous imaginez les scènes, et devraient agir simultanément dans les sous-sols, les ruelles, les appartements, sur les toits, immeuble par immeuble, notamment pour localiser les otages, les exfiltrer, en prenant le risque qu'ils soient tués, bien sûr, pendant les combats. Vous imaginez le processus qu'on est en train de décrire, quoi. Opération extrêmement longue, dit ce spécialiste, coûteuse, usante sur le plan matériel, physique, psychologique. Zic, que certes, les Israéliens sont bien entraînés au combat urbain, ils ont pour eux leur puissance de feu, les moyens technologiques. Ils sont tous dotés de jumelles de vision nocturne dernier cri qui permettraient de voir l'environnement en relief, de petits drones, de robots d'observation, des scanners qui voient à travers les murs. Ils pourraient installer leur base logistique juste de côté de la barrière. Mais ils auront en face d'eux des dizaines de milliers d'hommes motivés, bien armés. Certains d'entre eux seront retranchés, prêts à se sacrifier pour retarder l'avance des attaquants, tandis que d'autres, très mobiles, déplaceront les otages sur tout le territoire. Voilà à quoi pourrait ressembler ce conflit. Quelles seraient les conséquences si l'armée israélienne s'englue dans ce conflit? Cette opinion publique israélienne, qui majoritairement aujourd'hui souhaiterait l'offensive terrestre, nous disent les médias, eh bien, en cas d'enlisement, comme toujours, eh bien, cette opinion pourrait un peu changer d'avis. Si le conflit durait, le Hamas pourrait ouvrir de nouveaux fronts avec des attaques suicides, avec des commandos autour de Jérusalem ou en Cisjordanie. Ce que Israël a déjà connu. Hein, les bombes qui sautaient aux terrasses de café, qui sautaient aux arrêts de bus. Obligeant Israël à maintenir en permanence une mobilisation générale dans tout le pays, qui coûterait très cher, y compris en développement économique. Netanyahou perdrait alors rapidement le soutien de l'opinion publique, mais aussi ses soutiens internationaux. L'image du pays serait détériorée aux yeux des investisseurs occidentaux. Voilà. La question se posera ensuite du contrôle du territoire. Une occupation semblant inconcevable, il faudrait passer à la phase du retrait, de la négociation avec les Palestiniens, mais avec quels Palestiniens, quoi? L'autorité palestinienne, qui est en Cisjordanie, parce que l'on ne parle pas de la Cisjordanie, hein. Les Palestiniens, c'est de la Cisjordanie, contrôlée par l'autorité palestinienne, et puis c'est la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, quoi. Des frères ennemis qui se détestent cordialement, autorité palestinienne et Hamas, qui se sont fait même la guerre, avec une autorité palestinienne aujourd'hui qui est totalement déconsidérée, totalement inefficace, qui est largement corrompue. Et donc, avec qui discuter demain, quoi ? Qui sont les représentants des Palestiniens pour demain essayer d'instaurer la paix, quoi ? C'est la question que pose Libération. Voilà. Quelqu'un parlait d'une pelote de laine dure, impossible à démêler. Ça ressemble un petit peu à ça de Proche-Orient, mais ça ressemble à ça de Proche-Orient depuis toujours, en fait. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on en reparle, en fait. Bimbo Jet, merci pour le 20e mois d'abonnement. Power Skyred pour ce soutien. Merci beaucoup. Le Figaro, parce que là on a parlé pas mal de la bande de Gaza et de ce que vivent et ce que vont vivre les civils, mais les journaux français depuis le début, je trouve, ont une couverture, c'est mon sentiment, assez équilibré du sujet, en se penchant à la fois sur la monstruosité des attentats commis par le Hamas et la détresse des habitants de la bande de Gaza. Voilà, c'est vraiment assez équilibré. Ici, le Figaro se penche sur notamment le massacre dans le kibboutz de Kfar Aza, qui horrifie le monde, je lis. Les carnages perpétrés par les terroristes du Hamas dans les kibboutz, les localités au sud d'Israël, ont semé l'effroi, suscité un soutien unanime en Europe et aux États-Unis. En Israël, l'insondable onde de choc des massacres, même les progressistes en Israël, qui jadis croyaient en un possible dialogue avec le Hamas, puisque vous aviez des Israéliens qui croyaient en un dialogue avec le Hamas, et bien même ceux-là aujourd'hui, les plus pacifistes, les plus progressistes, souhaitent l'éradication rapide du groupe terroriste. Quelque chose a changé quand même en Israël après ces attentats. Les récentes déclarations du président américain indiquent clairement que la donne a changé, écrit Le Figaro. Elle donne à penser que le Hamas, qui tentait depuis plusieurs années de se donner un visage présentable sur la scène internationale, sera désormais traité comme le fut naguère l'État islamique, Daesh, c'est-à-dire comme un groupe terroriste, point. Mardi soir, alors qu'étaient révélées les horreurs perpétrées à Kfar Aza, Joe Biden a pris la parole, assurant Israël du soutien des États-Unis. Il y a des moments dans cette vie où littéralement le mal à l'état pur, sans altération, se déchaîne sur le monde. Le peuple d'Israël vit un tel moment, a notamment déclaré Biden. Alors, on parlait du massacre dans le kibboutz Kfar Aza, qui est l'un des kibboutz. Kibboutz, on va rappeler, c'est un village un peu communautaire, où tous les moyens de production sont mis en commun, en fait, une espèce d'utopie de vivre ensemble, qui est assez intéressante. Voilà, c'est ça, un kibboutz, en fait. Et il y avait pas mal de ces kibboutz qui étaient à la frontière, en fait, qui étaient du côté israélien, pas très loin de la bande de Gaza, et c'est eux qui ont été frappés en premier, quoi. Notamment ici à Kfar Aza, et le Figaro nous explique que les survivants de ce massacre commencent à parler et à faire entendre leur voix. Nous, dans le kibboutz, disent ses habitants, nous sommes des gens pacifiques. Il y a quelqu'un qui dit, un habitant de ce kibboutz, moi j'ai toujours cru que le dialogue était possible, même avec le Hamas, je me disais qu'après tout, les hommes sont des hommes. Mais ce qui s'est passé, dit cet habitant, n'est pas humain. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des gens avec qui on peut négocier. On ne négocie pas avec les nazis, ni avec le groupe État islamique. On ne négocie pas avec le Hamas. Il faut l'éradiquer. Alors seulement peut-être pourrons-nous vivre en paix avec les Palestiniens. Ce changement d'attitude a sans doute été à l'œuvre, écrit le Figaro, dans toute la société israélienne, révélé par le projet de réforme judiciaire du gouvernement de Netanyahou, dont je vous ai parlé ici, qui a beaucoup divisé la société. Les profondes divisions entre laïcs et religieux sont mises de côté aujourd'hui en Israël. Pour l'instant, du moins, l'heure est à l'Union nationale contre l'ennemi commun, ce qui est assez compréhensible. Alors, autre débat important, je suis désolé, mais je trouve que les articles de la presse du jour sur le conflit du Proche-Orient sont autant de masterclass. On apprend vraiment plein de choses et ça nourrit notre réflexion. Ça nous permet ensuite de nous faire peut-être notre opinion sur ce sujet difficile. Et vous avez un éclairage sur la question de est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ? Est-ce que le Hamas est coupable de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité ? C'est une juriste qui en parle. Lisons ça, on va voir si on va apprendre des choses. Comment qualifier ces crimes ? Hein, vous savez, le débat soulève la classe politique française, alors que la France insoumise, non, c'est pas vrai. Certains élus de la France insoumise, pas tous, refusent toujours de qualifier l'organisation terroriste Hamas de terroriste. Hein, vous savez, vous avez vu ça, il y a des élus, LFI, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui à ce jour refuse de qualifier le Hamas de terroriste. Voilà. Invité à clarifier la position des insoumis sur France Info mercredi, le député LFI Manuel Bompard, par exemple, Non, pas tous, c'est pas vrai. Pas tous. François Ruffin, par exemple, lui dit que le Hamas est terroriste. Donc mercredi, le député LFI Manuel Bompard, et jusqu'à preuve du contraire, M. Ruffin, il est LFI. Le député LFI Emmanuel Bompard a concédé dans une pirouette: le Hamas est une organisation qui a commis samedi des actes qui visent à semer la terreur, mais au regard du droit international, le coordinateur de la France Insoumise, donc Bompard, préfère parler d'actes qui s'apparentent à des crimes de guerre. C'est ce qui est important, car c'est ce qui permettra ensuite de les juger, dit Bompard, des mots qui n'ont pas convaincu par exemple le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a lâché ce mercredi: c'est pire qu'un acte terroriste, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Derrière cette bataille de mots, qui peut sembler pas importante mais qui l'est, le droit international donne une définition précise et distincte de ces différentes notions. Est considéré comme crime de guerre tout acte commis au sein d'un conflit en violation du droit international humanitaire, établi notamment par les conventions de Genève, quel que soit le conflit, son objectif et les belligérants. En revanche, il y a crime contre l'humanité seulement si des actes comme des meurtres, des exterminations, des déportations, des persécutions, des tortures s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre les populations civiles. Les politiques ne maîtrisent pas ces définitions, se désole Julia Grignon, qui est une chercheuse en droit. Les dizaines de bébés assassinés, les vieillards, les enfants massacrés, les otages utilisés comme boucliers humains, les cadavres trouvés décapités ou brûlés, tout cela peut être sans ambiguïté qualifié de crime de guerre, dit Julia Grignon, qui précise aussi qu'il en est de même du siège imposé par l'État hébreu sur Gaza. Couper l'eau, l'électricité, de sorte à ce que cela puisse conduire à une famine, est une méthode de guerre interdite. La parole à Philippe Riemann, qui est professeur de droit international. Il rappelle que l'évocation de crime de guerre de part et d'autre peut être aussi une manière politique de renvoyer dos à dos le Hamas et Israël. Et c'est de ça dont sont accusés certains membres de la France insoumise, hein, de renvoyer dos à dos les deux parties, quoi. Pour LFI, évoquer des crimes de guerre confère une valeur de combattant régulier au Hamas et donc une légitimité politique que le qualificatif de terroriste, au contraire, masque. Surtout, qu'en est-il de possibles crimes contre l'humanité ? Le caractère généralisé ou systématique n'est-il pas réuni ? Pour le côté généralisé de ces crimes, les juristes interrogés par le Figaro s'accordent pour dire que les plus de 1200 morts tués indistinctement dans plusieurs localités, dans leur maison, dans la rue, lors d'une fête où les combattants ont tiré sans distinction, sont autant de faits susceptibles d'être retenus. Quant au second critère systématique, il n'y a, je crois, pas grande discussion, dit un avocat en droit pénal et droit de l'homme qui s'appelle William Julier. La construction idéologique et politique portée par le Hamas a eu de nombreux précédents par le passé, même s'il ne date pas d'hier. Donc le Hamas se serait rendu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, selon des juristes. Il reviendra éventuellement à un tribunal pénal international, voire à la Cour pénale internationale, si elle est saisie, de le déterminer. La justice française aussi pourrait être saisie si les familles des 11 ressortissants français décédés ou des 18 portés disparus potentiellement retenus en otage par le Hamas déposent plainte. Voilà. Cet article me convainc pas totalement. Mais en même temps, il faut lire entre les lignes. Cet article s'interroge de façon pas très claire, mais je crois comprendre ce qu'il veut dire, sur... pourquoi certains élus LFI refusent de parler du Hamas comme d'un mouvement terroriste et préfèrent parler de crimes de guerre, puisque ce serait donner aux combattants du Hamas un statut de combattant, crime de guerre, et pas de terroriste, acte terroriste. Et de renvoyer dos à dos les responsabilités des uns et des autres, des Israéliens et des Palestiniens. Voilà. Ça, ce serait la position de certains élus LFI, tandis que d'autres préfère qualifier les actions du Hamas d'actions terroristes. Je vous rappelle que selon l'Union européenne et les États-Unis, le Hamas est une organisation terroriste, estimant que d'un côté, vous avez un État, une nation, qui est une démocratie par ailleurs, qui n'est pas parfaite, mais qui est une démocratie où les gens votent, qui est Israël, et de l'autre, une organisation terroriste. On ne parle pas des Palestiniens, mais on parle du Hamas. Voilà à peu près les termes du débat, quoi. Termes du débat. Alors, non, si on... Alors là, on joue sur les termes, on joue sur les mots. Alors c'est un peu vain, mais Hirschien dit donc un État palestinien. Ben non, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État palestinien. Alors que c'est l'objectif depuis le début, alors que les accords d'Oslo et que même la création de l'État d'Israël, normalement, l'État d'Israël doit naître normalement en 48 en même temps qu'un État palestinien. Et puis ça ne se fait pas pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'État palestinien. Hélas. Je vous lis là sur le sujet. C'est ce que dit John. Les crimes de guerre, ça suppose l'existence d'un conflit entre deux États. Voilà. Or, le Hamas n'est pas un État. C'est un mouvement terroriste. La Palestine, l'État palestinien n'existe pas, hélas, j'ajoute. Donc, ce n'est pas un conflit entre États. Et donc, ce ne sont pas des crimes de guerre du côté du Hamas, ce sont des actes terroristes. Bon. Je vous lis, hein. Il y a Colt qui écrit dans le chat: je ne comprends pas pourquoi on parle autant de ce conflit en France alors que ça nous concerne en rien, de la même manière que la guerre en Ukraine. On en parle comme si ça nous touchait en tant que Français, alors que perso je me sens pas concerné. En fait, Colt, la France est le pays européen qui abrite la plus grande communauté juive. Il y a, d'après les chiffres que j'ai lus, il n'y a pas de pays dans l'Union européenne qui accueille une plus grande communauté juive. Et la communauté musulmane en France est également extrêmement importante, et c'est peut-être aussi à vérifier, mais on n'est pas loin non plus d'être le pays qui accueille la communauté musulmane la plus importante en Europe. Quand tu as deux communautés aussi importantes que celle-ci, une communauté juive en France qui peut évidemment vivre avec la douleur que tu imagines ce qui se passe après les attentats du Hamas, et une communauté musulmane qui peut vivre avec la douleur que tu imagines ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, et bien en fait, ces deux communautés qui sont des Français, hein, et des Françaises, et bien évidemment qu'elles sont touchées en leur sein, hein, que ça crée de la douleur, quoi. Et que cette douleur, elle peut provoquer des tensions, voilà, entre ces communautés, en leur représentant. Donc en fait, voilà pourquoi en fait on en parle autant. Notamment... Parce que ça, c'est juste parce que ça peut être... C'est la théorie de la possible importation de ce conflit chez nous. Mais au-delà de cette question, tout simplement parce qu'en fait, nous ne sommes pas que Français. Je ne sais pas où tu habites. Imaginons que tu habites à Limoges. Tu n'es pas que Limougeau. C'est Papy Sam qui repart dans ses délires. Tu n'es pas que Limougeau. Tu es... c'est quelle région, Limoges? Je ne sais même pas. Tu n'es pas que de la région de Limoges. Tu n'es pas que Français. Tu n'es pas que européen. Tu es un humain qui a priori a eu la chance de naître Nouvelle-Aquitaine. Merci. Dans un pays matériellement plutôt confortable par rapport à d'autres, qui est la France, par le hasard de ta naissance. Tu n'as et je n'ai aucun mérite d'être né français. C'est juste le hasard de ce qu'on appelle le hasard de la naissance. Mais nous sommes citoyens d'une même planète et d'un même monde, quoi. Et normalement, je ne sais plus quel écrivain a dit tout ce qui est rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger, un truc comme ça, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Et en fait, ces Israéliens, ces Palestiniens, ces Arabes, ces Juifs sont comme toi, comme moi, des êtres humains, en fait. Et ce qui leur arrive là, en fait, doit nous intéresser. Par deux mots viennent d'être écrits par la Palacoco dans le chat, par empathie et compassion. Voilà. Voilà. Donc parce que ça peut nous impacter directement dans notre actualité, parce que en fait nous sommes humains tout simplement. Si je puis me permettre, c'est mon regard, mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il me reste encore beaucoup de choses. Est-ce que je vais me chercher un petit verre d'eau rapide? Attends, je vous montre ce qui reste. Un édito dans la Croix sur la désinformation. Ah. Alors on vit une séquence où on essaye de s'informer pour comprendre ce qui se passe. Attention aux sources d'information. Voilà, c'est la Croix qui nous dit attention, la manière dont vous vous informez, vérifiez bien les informations. Il y a beaucoup de fake news qui circulent. Demain, Julien Pin, spécialiste de la lutte contre les fake news, sera avec nous dans l'hebdo Étienne. Alors, a priori, c'est Terence qui aurait écrit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Merci. Le Hamas, meilleurs ennemis des Palestiniens. Ça, c'est la une de l'Humanité. Voilà. Le Hamas, la Kalachnikov et la Sharia. D'où vient le Hamas? Qu'est-ce que le Hamas? Quelle est l'histoire du Hamas? Voilà, ça, c'est un gros dossier dans l'UMA qui est très intéressant. Ce papier, il est fascinant aussi. Fascinant, j'exagère un petit peu. Il m'a vraiment appris plein de choses. 60 ans d'évolution de la France sur le conflit au Proche-Orient. Comment s'est comportée la France par rapport à ce conflit? Comment la France, sur 60 ans, s'est comportée par rapport aux Israéliens, aux Palestiniens? Parce qu'en fait, il y a eu des changements. Voilà. Et aujourd'hui, la parole portée par le président Macron, peu ou prou la même que celle du président Hollande, peu ou prou la même que celle du président Sarkozy, n'est pas la même parole sur ce conflit que celle de Chirac, de Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing, de Pompidou et du général de Gaulle. Alors ça, j'ai appris des trucs super intéressants. Et puis on finira avec un petit papier sur Palestine, le poids d'une économie immature. Comment, en fait, l'économie palestinienne, qui est une économie qui est faible, qui n'est pas riche, qui est empêchée, qui est limitée, hein, notamment par la pression qu'Israël fait peser sur les territoires, cette économie immature, en fait, est un vrai problème parce que crée un terreau social qui fait que vous avez une partie importante de la population palestinienne qui est extrêmement jeune en plus, qui est extrêmement pauvre et qui peut être tentée par des discours violents, puisque de toute façon leur horizon de vie de toute façon est tellement fermé qu'à un moment on peut être tenté par la violence. On finira sur cette notion économique parce que Les Échos, journal économique, nous explique eh bien, qu'il y a aussi une dimension économique dans ce conflit et que si on n'aide pas la Palestine ou si on ne donne pas aux Palestiniens les moyens d'avoir un minimum de confort matériel, hein, eh bien en fait on ne peut pas sortir non plus de ce bourbier, de cette séquence de violence. Voilà. La solution n'est pas que politique, elle est aussi économique. Vachement intéressant. Ok, les amis, bon, ça fait 2h03 que je cause. 2h03 que je cause moins 11 minutes de président Macron. Voilà, c'est un petit peu court quand même. Je vous mets une petite musique très courte et je vous retrouve dans 2 minutes le temps de m'hydrater. Voilà. Où est la musique? Elle est là. Ok. Vous bougez pas, je vous retrouve dans chrono 2 minutes hein, et on finit les articles. A tout de suite. Petite musique cool. A tout de suite, 2 minutes. Was it something that I did?
shadows of this quiet town. I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take.
On y va? Mais belle celle-là. Très petite musique de raid ça. Désolé, je mange des. Mais belle celle-là. Je mange des. Je sais pas, des petits bonbons en forme de schtroumpf. C'est bon. Ça fait du bruit par contre. Pardon, j'ai honte. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis les sons que j'écoutais. C'est mignon. Voilà. Merci Culotte Courte pour le sub encore. Alors, merci pour les gentils messages. Écoutez, vous savez que j'aime bien flex et je vais me vanter tout seul. Il y a un truc dont je suis content, mais qui est un truc qu'on fait ensemble en fait. Ouais, c'est des bonbons en forme de schtroumpf. C'était comme des bonbons Haribo quoi. Là c'est grand schtroumpf, là c'est schtroumpf je sais pas comment, voilà, c'est très très bon. C'est ma femme qui mange beaucoup ce truc là. Il y a un truc dont je suis très content, c'est ce qu'on fait ici, c'est à dire que le postulat ici depuis le début c'est de parler de l'actualité. Dans l'actualité il y a beaucoup de choses qui fâchent et dès le début on m'a dit mais ça tu peux pas parler de tel sujet, notamment tiens le conflit au Proche-Orient, ça provoque des gens bien intentionnés, hein, ça provoque des dingueries à chaque fois dans le chat, les gens s'engueulent, s'opposent, se déchirent. Voilà. Tu peux pas parler de ça sur Twitch, mais si en fait, c'est-à-dire que l'actualité, pour être un citoyen éclairé, c'est important de savoir comment le monde fonctionne, et il faut s'intéresser quoi. Et évidemment qu'on va pas mettre la poussière sous le tapis, on va pas parler que des choses qui fonctionnent, même s'il faut parler aussi des choses qui fonctionnent, qui parfois sont des bons exemples, mais il faut parler de ce qui va pas dans ce monde pour... éventuellement un jour essayer de l'améliorer, l'arranger, le régler, le solutionner, comme ce qui se passe au Proche-Orient. Donc on parle des trucs qui fâchent depuis toujours ici. Voilà. Et puis les gens sont habitués, et les gens, et notamment vous, ont compris, et vous avez compris ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire que, le truc que je répète souvent, les habitués, vous devez en avoir marre, mais eh bien, on a tous des regards extrêmement différents sur l'actualité, parce qu'on est tous très différents, on a tous des valeurs différentes, des opinions différentes, des sensibilités différentes, des histoires différentes, des éducations différentes qui font que sur une même problématique on va avoir des avis et des solutions différentes quoi. Mais le pari ici c'est que dans cet espace qu'on définit en fait c'est que on arrive à en parler ensemble, on constate nos différences, nos oppositions, on se dit de façon à peu près respectueuse, c'est-à-dire on dit je ne suis pas d'accord avec toi, je ne serai jamais d'accord avec toi, mais on dit pas gros con d'enculé de merde quoi. Voilà, même si je jure beaucoup moins. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait le constat de nos différences, mais au moins il y a ce lien de l'échange, de la discussion, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, parce que la fin, c'est quand les gens parlent plus ensemble, quoi. Donc ici, il y a des gens qui sont sur des positionnements très loin de moi, des gens beaucoup plus progressistes que moi, ouais, des gens beaucoup plus conservateurs que moi, mais on arrive à en parler ensemble. Voilà. Donc ça, je suis content de ça. Et là, par exemple, c'est notre quatrième stream de suite. Quatrième jour de suite, quatrième soir de suite qu'on parle pendant 3 heures du Proche-Orient, qui est le sujet qui fout le feu, et bien on arrive à en parler. Et vous savez quoi? Bravo. Je suis super fier de ce qu'on a réussi à créer ensemble. Allez, j'arrête de nous jeter des fleurs, et maintenant, je remercie Cabier pour le 20e mois d'abonnement, et on revient à la revue de presse, donc avec Israël. C'est la une de la Croix, de ce jeudi matin là, qui se découvre vulnérable. Ça aussi c'est une notion intéressante.
L'ampleur des attentats du 7 octobre souligne la fragilité du système de sécurité israélien, pourtant au cœur du contrat social du pays. C'est-à-dire que Israël est un État particulier, hein, c'est un pays qui est en guerre depuis sa création, voilà. Service militaire obligatoire pour les hommes, pour les femmes, assez long, des périodes de réserve et tout, c'est du contrat social particulier, voilà, pour assurer la sécurité du pays. Et le deal, c'est que bah, voilà, les dépenses militaires sont importantes, l'effort de chacun pour garantir la sécurité du pays sont importants, mais en échange, bon, bah, vous êtes relativement en sécurité à l'intérieur des frontières. C'est ce sentiment de sécurité relative qui vient en fait d'exploser, quoi. Ça, c'est le constat de la Croix. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, bon, on en parlait à l'instant, actuellement, beaucoup de gens, les médias, mais aussi les citoyens, émettent pas seulement des avis et des opinions, mais des infos sur les réseaux sociaux en disant voilà ce qui se passe actuellement, c'est un scandale, c'est dramatique. Soit pour dénoncer les frappes contre les Palestiniens, par exemple, soit pour dénoncer les actes terroristes du Hamas. Et notamment sur, par exemple, l'épisode des bébés décapités, vous savez. Donc vous avez vu, si vous traînez un peu sur les réseaux ces derniers jours, vous avez vu des gens qui ont attends, je vérifie juste un truc au niveau technique. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Des gens qui ont affirmé des bébés, pardon pour les âmes les plus sensibles, mais des bébés israéliens, des bébés juifs ont été tués et décapités par des combattants, par des militants du Hamas. Voilà. Des soldats les ont vus, des journalistes les ont vus. Il n'y a pas de débat. Voilà. Et puis, donc, il y a des gens qui l'ont affirmé en disant, mais vous voyez, tel journaliste, qui est un journaliste rigoureux, l'a affirmé, donc il y a eu des... Voilà. Et à un moment, on a même parlé de 40 bébés qui auraient, et vous voyez que je mets un conditionnel, qui auraient été décapités. Et puis, quelques heures après, le lendemain, finalement, la source qui avait affirmé que 40 bébés avaient été décapités a dit, ah oui, alors non, c'est pas 40. En fait, il y a eu 40 victimes dans ce kibbout, dans cette localité. Et parmi ces 40 victimes, il y avait des bébés décapités, tel soldat les a vus, et il me l'a dit. Voilà. Le problème, c'est que de l'avis même de certaines sources officielles, et notamment de l'armée israélienne, là, aujourd'hui, au niveau de l'état-major de l'État israélien, qui n'a aucune raison de cacher éventuellement cette information qui provoquerait encore plus de colère contre le Hamas, au plus haut niveau de l'état-major israélien, pour l'instant, cette information... Des bébés décapités n'a absolument pas été confirmé. Vous avez, moi j'ai écouté une vidéo d'une jeune porte-parole française d'ailleurs de l'armée israélienne, mais qui n'est qu'une porte-parole, qui a dit sur la foi de choses qui lui ont été rapportées qu'il y a eu des bébés décapités. Mais l'état-major ne le confirme pas. Là-dessus, qu'est-ce que je dis moi en tant que journaliste? Je ne dis pas que c'est une fake news totale. T'as même, tu vois, il y a Repet qui dit mais si Biden l'a confirmé, et alors? Est-ce que Biden est allé voir sur place? En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est même quand la source paraît plausible, carrée, quand on te dit quand un journaliste te dit un soldat israélien les a vus, tu te dis ben il a le soldat israélien l'a vu, le journaliste semble rigoureux, let's go quoi. Biden en a parlé. Quand tu écoutes bien la phrase de Biden, c'est pas si clair d'ailleurs. Mais bon, mais est-ce qu'il les a vus? Voilà, là-dessus, sur ce point-là, sur les bébés, je vous dis, aujourd'hui, malgré les affirmations des uns et des autres, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et on va le savoir. On va le savoir. Bon, Mlle Messi me dit que la Maison-Blanche a démenti que Biden ait vu des photos. Peu importe. On va le savoir. On va le savoir dans quelques heures, on va le savoir dans quelques jours. Peu importe. C'est pas grave de perdre 2 jours ou 3 jours pour vérifier une information comme ça. Quelqu'un me dit, ça change quoi au final, les bébés sont morts, je suis d'accord. Le crime, c'est d'avoir tué un bébé, de toute façon. Et c'est un crime contre l'humanité, évidemment, quoi. Mais si en plus, les comportements de ces terroristes du Hamas sont allés jusqu'à décapiter post-mortem ou pas des bébés, ça rajoute à l'inhumanité de ces gens, quoi. Donc c'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc on va attendre. Hein, je sais qu'à l'heure de l'info sur internet, de l'info sur les chaînes d'info, on continue, on est toujours, on veut toujours savoir avant les autres, on veut toujours être les premiers à donner l'info, toujours les premiers à retweeter l'info, voilà. Et puis du coup on dit des conneries parce qu'on va un petit peu trop vite. Prenons le temps pendant quelques heures, pendant quelques jours, voilà, ça n'est pas grave. Dans le passé, voilà, il y a eu plein d'histoires, il y a eu régulièrement des histoires où les médias, les citoyens, les politiques sont allés trop vite et on nous a raconté des conneries. La guerre en Irak, les fameux bébés dans une maternité qui auraient été jetés au sol par des soldats et qui seraient morts de faim et de froid au sol, avec une jeune infirmière éplorée face caméra qui disait « j'ai vu les bébés par terre, j'ai vu les soldats jeter les bébés par terre hein, », ce qui a accéléré l'entrée, une des choses qui ont accéléré l'entrée en guerre des États-Unis à l'époque avec le basculement de l'opinion publique américaine. Bon. Et encore une fois, avec une jeune infirmière qui disait qu'elle l'avait vue. Bon, ben, on s'est rendu compte que c'était totalement bullshit, que la jeune femme, c'était la fille d'un ambassadeur, que le truc avait été totalement scripté. Voilà, aujourd'hui, on le sait. C'est, bon. Pour les plus anciens, j'en ai déjà parlé, le massacre en Roumanie. C'est bien en Roumanie. Hein. Les épouchés au Cescu, c'était la Roumanie. Timișoara. Le charnier de Timișoara. Oui, c'est en Roumanie. Tenez, vous avez une page Wikipédia là qui est... Si ça vous intéresse, l'histoire, elle est édifiante. Si ça vous intéresse de comprendre pourquoi il ne faut pas aller trop vite en matière d'information, vous allez voir sur Wikipédia ou ailleurs l'affaire des charniers de Timișoara. Je vous lis ces quelques mots parce que ce sera sûrement mieux raconté que moi. L'affaire des charniers de Timișoara, donc, bon, moi, c'est une histoire qui m'a touché parce qu'à l'époque, c'était il y a longtemps, mais j'ai, comme je suis un vieux machin, je l'ai connue, cette histoire. Donc, c'est une histoire de fausses informations diffusées sur les victimes de la répression du régime communiste à l'époque. De Roumanie qui était dirigée par Nicolae Ceaușescu qui était un dictateur communiste. Alors en 89, il y a eu une révolution en Roumanie pour virer en fait la dictature de Ceaușescu. Et puis un jour, eh bien, des journalistes sur place, des médias ont rapporté, notamment des médias occidentaux, qu'on avait découvert un charnier, c'est-à-dire un cimetière fait à la va-vite avec des cadavres qui auraient été traités voilà, avec des ventres découpés, avec des choses atroces. Quoi, voilà. Et pendant plusieurs jours, comme ça, eh bien, les médias, et notamment occidentaux, ont raconté qu'on avait découvert un charnier à Timișoara, une preuve en fait, des agissements monstrueux, des turpitudes de ce régime de Ceaușescu. Bon, et alors moi, je me rappelle de l'avoir vécu de près, ce truc, parce que donc bon, en gros, il y a eu un article après qui a fait boule de neige. Et puis, dans des rédactions en France, il y avait des envoyés spéciaux sur place, des correspondants qui disaient « Mais écoute, moi, je suis allé sur place et je n'ai pas vu ça. Il n'y a pas autant de corps que vous dites. Et puis, on n'est pas sûr que ce sont des victimes du régime, des gens qui auraient été enlevés et torturés et tués. » Et en France, des rédactions qui disaient « Mais si, j'ai lu le papier de machin. Il y a une dépêche d'agence qui dit que c'est un charnier. Donc, ben, retourne sur le terrain. » C'est-à-dire qu'on ne croyait pas les gens qui étaient sur place. Résultat, l'histoire... Alors c'est mignon parce que quelqu'un me dit que ça fait quand même beaucoup d'histoires créées par les Occidentaux. Alors pour le coup, vous allez voir qui a créé l'histoire. Et on s'est rendu compte quelques temps plus tard que bah, il n'y avait pas de charnier à Timișoara, que c'était un cimetière en fait, où avaient été enterrés un peu à la va-vite des gens qui étaient morts dans un hôpital voisin, d'où les ventres qui avaient été recousus, puisqu'en fait c'était des opérations, et qu'en fait cette affaire avait été montée de toutes pièces par des membres des services de secrets roumains, qui avaient basculé, changé de côté, et en fait, pour rester un peu les maîtres du nouveau pays qui allait suivre la dictature communiste, étaient en train de précipiter la chute du régime de Ceaușescu. Voilà. On a été manipulés. Voilà. Donc, ne jamais se presser. Quand il y a un doute sur une information, attendons 24 heures, 2 jours, 3 jours. Attendons que les journalistes fassent leur travail, corroborent les informations. Voilà. Ne pas jamais réagir à chaud. Quoi. Par exemple, sur les bébés décapité en Israël. Aujourd'hui, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Attendons. La vérité va éclater dans quelques jours. Voilà. Et c'est de ça dont parle cet édito de la Croix des Informations. Je lis. Oh, pardon. Il faut peut-être que je mette la scène. Hop. L'impitoyable guerre que se livrent le Hamas et Israël se joue également sur le terrain de l'information. Depuis l'attaque d'une violence inouïe déclenchée par le mouvement islamiste samedi 7 octobre, les images, les vidéos déferlent sur les réseaux sociaux, prises d'otages, corps décapités, assassinats filmés, etc., dont certaines se révèlent fausses. La facilité et la rapidité avec laquelle elles nous parviennent peuvent nous donner l'illusion de la véracité. En réalité, ces images nous appellent à la plus grande vigilance. Chaque fois, les mêmes questions doivent se poser. Qui filme ? Pourquoi ? Chaque jour apporte son lot de nouvelles terrifiantes et de crimes abjects. Si vous traînez un peu sur les réseaux, vous devez le voir. Les images, mais aussi les paroles, pas seulement les images, mais les mots aussi. Jetés sans aucune précaution sur nos écrans, nous laissent sans défense, l'absence de médiation renforçant encore le choc ressenti. Elle nous rappelle une fois de plus le rôle des journalistes pour vérifier, contextualiser, éclairer l'information. Il y a des journalistes qui font bien leur travail, il y a des journalistes qui le font mal. Il y a un journaliste qui lundi peut bien travailler, le lendemain le même journaliste mal travaillé, pas assez se renseigner, pas assez vérifier, écrire trop vite. C'est un métier humain, c'est un métier faillible. Il ne faut pas prendre pour argent comptant même la parole des journalistes qui parfois peuvent se tromper. Des journalistes qui sont hélas pas assez nombreux sur le terrain actuellement pour prendre la mesure de ce qui se passe, notamment le déluge de feu sur la bande de Gaza, d'autant que 5 journalistes, tous palestiniens, sont déjà morts depuis samedi dans la bande de Gaza. La Croix qui nous dit qu'il n'y a pas assez de journalistes actuellement dans la bande de Gaza pour nous raconter ce qui se passe, quoi. Quelqu'un me dit, même la parole de Samuel Etienne, elle peut être mise en cause, évidemment, bien sûr. Ces tentatives de désinformation inquiètent le commissaire européen au numérique. Ces derniers jours, il a mis en garde les patrons des principales plateformes, Mark Zuckerberg, Facebook et Instagram, Elon Musk pour X/Twitter, contre la recrudescence de deepfakes sur leur réseau, hein, les fausses images rendues crédibles par intelligence artificielle, et autres contenus manipulés du fait des réseaux. Le retentissement risque de s'étendre bien au-delà des frontières du Proche-Orient. Voilà. Prudence, prudence sur les informations. Et je pense que, comme le dit Nico Manga, Julien Pain, le journaliste de France Info, nous en parlera demain. Très bon dossier de l'Humanité aussi sur ce sujet, ce jeudi, qui nous parle du Hamas, qui nous parle de l'histoire du Hamas. Après ce dossier, vous en saurez un peu plus sur le mouvement. Le Hamas, meilleur ennemi des Palestiniens, nous dit l'Humanité, et c'est intéressant que ce soit l'Humanité qui le dise, qui est un journal qui historiquement est très proche de la cause palestinienne et qui dit aujourd'hui le Hamas c'est l'ennemi des Palestiniens. Hamas, la Kalash et la Sharia. La force déployée par le Hamas lors des attaques meurtrières du 7 octobre et ses capacités militaires ont surpris jusqu'au service de renseignement israélien. Retour sur cette organisation islamiste palestinienne qui reçoit des fonds de certains pays du Golfe, de l'Iran et de la Turquie. Naissance, 87, 14 décembre 87, alors que la première intifada a éclaté, une nouvelle organisation palestinienne voit le jour. C'est le mouvement de la résistance islamique, acronyme arabe Hamas. Parallèlement, une branche armée est créée, qui est la branche armée du Hamas, puisqu'il y a un visage politique du Hamas. Il y a une branche armée qui est le groupe Izz al-Din al-Qassam, en référence à cet islamiste tué en 1935 et qui s'était battu contre le mandat des Britanniques. Parce que pour bien comprendre le conflit proche-oriental, il faut non seulement remonter à la création de l'État d'Israël en 1948, mais remonter également à la colonisation de cette région par les Britanniques, la déclaration de Dalfour, c'est ça ? C'est-à-dire quand les Britanniques, avant même la Première Guerre mondiale, au vu de l'antisémitisme dans le monde et des violences... Non, c'est pas Dalfour. C'est Balfour. Je savais bien que ça n'allait pas. Vous voyez, toujours vérifier. Heureusement, moi, je doute beaucoup de ce que je dis. Moi. C'est la déclaration de Balfour avec un B comme Bernard et pas un D comme Denise. Voilà, déclaration de Balfour. Une déclaration, donc, de la Grande-Bretagne. C'est Balfour, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Avant même la Première Guerre mondiale, qui dit, alors que la Grande-Bretagne, enfin, l'Angleterre de l'époque... était la puissance coloniale dans la région, en disant eh ben, il faudrait créer un État palestinien. Donc là, on est en 1916, 1917, je crois. Il faudrait créer un État israélien, je dis palestinien, il faudrait créer un État israélien en Palestine, voilà, pour que les Juifs du monde entier qui le souhaitent puissent venir se réfugier et se protéger contre l'antisémitisme. On est avant la Première Guerre mondiale. C'est avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc il faut remonter à là. Il faut remonter à cette période-là. Et au même moment naît le sionisme. Le sionisme, c'est ce mouvement intellectuel et politique qui vise à créer un pays, un État, pour les Juifs, chose qu'ils n'ont pas, pour pouvoir vivre en sécurité, hein, confrontés notamment à l'antisémitisme. Voilà. La Palestine était une colonie britannique, oui, c'est ça, oui. Une partie de la région était sous mandat britannique. Donc ça, c'est là. Il y a une vidéo d'Hugo Décrypte là-dessus de 16 minutes 30 qu'on a regardé, qui est super bien faite sur les origines du conflit. Voilà. Déclaration de Balfour. Et puis, donc l'idée fait son chemin. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah et les millions de morts, c'est un protectorat, pas une colonie. Merci. Petit degré en dessous, quoi. Eh bien, la communauté internationale et les Nations Unies disent, eh ben, on va faire ça. On va créer un État, un pays pour Israël, en Palestine. On va même faire deux États. Un pour les Palestiniens, parce qu'il y a plein d'Arabes qui vivent dans la région déjà. Donc, on va leur donner un État et on va faire un État pour les Palestiniens. Et un pour les Israéliens. Sauf que déjà, alors que les Palestiniens sont plus nombreux que les Israéliens dans la région, je résume à mort, hein. Je fais super simple là, hein. Mais c'est pour vous dire que le truc il est vieux. Déjà, le pays pour les Israéliens, Israël est plus grand en termes de superficie que celui pour les Palestiniens, alors qu'ils ont moins d'habitants. Bon. Les Arabes et les Palestiniens le prennent très mal. Et les pays arabes de la région rejettent la création de l'État d'Israël, voilà, sur des terres, clament-ils, qui ne sont pas les terres des Juifs, mais les terres des Arabes. Et dès la création de l'État d'Israël, en 1948, les pays arabes de la région entrent en guerre contre Israël, et c'est le début des guerres israélo-arabes. Et donc, il y en a eu plusieurs, il y a eu la guerre du Kippour, la guerre des Six Jours, tout ça. Ouais. À chaque fois gagné par Israël, parfois de justesse, parfois avec une aide très importante des États-Unis. Et c'est le début de la crise israélo-palestinienne. Voilà. Alors après, il y a l'histoire des territoires, après il y a la colonisation, voilà. les colonisations des colons juifs, etc. Donc, je ne vais pas vous faire tout parce qu'on y passerait la nuit, mais juste pour vous compreniez, si ça vous intéresse, que ce conflit remonte à... au début du XXe siècle, en fait. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo d'Hugo Décrypte de 16 minutes 30 sur sa chaîne. Vous allez sur la chaîne d'Hugo sur YouTube, vous tapez « Conflit israélo-palestinien ». Vous allez trouver un truc qui est relativement bien fait. Allez, je reprends mon fil, pardon, après cette grande parenthèse, sur le Hamas, qui donc, lui, naît en 1987. Dans sa charte publiée dès 88, le Hamas considère que la Palestine dans son ensemble est un bien religieux musulman dédié aux générations de musulmans jusqu'au jugement dernier. Donc vous avez le Hamas qui dit toute la Palestine, toute cette région, c'est aux musulmans, voilà, et ce sera aux musulmans jusqu'au jugement dernier. Il y a un modo qui vous a mis le lien pour la vidéo d'Hugo. Et donc la loi sur terre qui doit réagir les Palestiniens, la loi sur terre qui doit régir les Palestiniens, c'est la charia, c'est la loi islamique, puisque la Palestine est un bien religieux musulman. Il prône, le Hamas, la destruction d'Israël. Cette dernière idée, cependant, n'est pas contenue dans le programme politique du Hamas, qui a évolué ces dernières années sur cette question. Le Hamas, qui a notamment changé après la mort de Yasser Arafat en 2004, farouchement opposé aux accords de paix d'Oslo de 1993, le Hamas a pourtant accepté de participer aux législatives de 2006, qui était pourtant organisé dans le cadre des accords d'Oslo, acceptant de fait le principe de la solution à deux États, un État palestinien, un État israélien. La victoire du mouvement islamiste à l'occasion de ce scrutin, puisque le Hamas va gagner les élections législatives à Gaza en 2006, la victoire du mouvement islamiste à l'occasion de ce scrutin va marquer sa force face au Fatah. Le Fatah, c'est l'organisation de Mahmoud Abbas, considérée comme corrompu, hein, qui gère aujourd'hui la Cisjordanie, et en tout état de cause, empêtré dans une gestion politico-administrative avec l'autorité palestinienne. Alors que les accords d'Oslo n'ont rien changé au quotidien des Palestiniens, à mesure que l'occupation et la colonisation se sont aggravées d'année en année, le Hamas s'est présenté comme la seule résistance à Israël. Après leur victoire donc aux élections en 2006, les islamistes ont l'année suivante de nouveau affronté le Fatah, mais par les armes, c'est-à-dire qu'à un moment le Fatah palestinien et le Hamas palestinien se sont affrontés militairement pour le contrôle de la bande de Gaza, et là aussi militairement ils sont sortis vainqueurs. une aubaine pour Israël, qui a immédiatement décrété le blocus de cette enclave palestinienne. Sur le blocus de Gaza, en fait, est né du conflit entre le Hamas et le Fatah. Blocus qui dure depuis 16 ans maintenant. Le mouvement palestinien est ainsi divisé politiquement et géographiquement. D'un côté, la bande de Gaza, le Hamas, de l'autre, la Cisjordanie, le Fatah. Or, le mouvement national palestinien est orphelin de son unité brisée, faute d'une nouvelle OLP dans laquelle se retrouveraient toutes les composantes politiques palestiniennes. Dans l'équation qu'on est en train d'évoquer du conflit israélo-palestinien, il y a le fait qu'aujourd'hui, les Palestiniens eux-mêmes sont extrêmement divisés. Bon, on parle des représentants politiques palestiniens, bien sûr, pas forcément du peuple, d'ailleurs. Fin de l'article de Pierre Barbancet. Par la suite, les attentats suicides organisés par les islamistes en territoire palestinien ont servi la droite israélienne opposée à la création d'un État palestinien, puisqu'il y a eu des attentats islamistes en territoire palestinien. Benjamin Netanyahu en sait quelque chose, lui qui a battu Shimon Peres lors des élections de 1996. Le grand journal israélien qui s'appelle Haaretz vient de rappeler, ça c'est un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est hyper important. Haaretz, c'est un grand journal israélien, et Haaretz vient de nous rappeler une chose. L'actuel premier ministre israélien au pouvoir, là, Benjamin Netanyahu, en 2019, il a déclaré devant les députés de son parti, le Likoud, il a déclaré, c'est une dinguerie, hein, quiconque veut contrecarrer l'établissement d'un État palestinien, donc déjà Netanyahu dit clairement qu'il ne veut pas entendre parler d'un État palestinien, alors que c'est la clé de la résolution du conflit. Quiconque veut contrecarrer l'établissement d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas, le groupe terroriste de Hamas, et le transfert d'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Vous avez l'actuel Premier ministre israélien qui a déclaré il y a quelques années, en 2019, qu'il fallait soutenir le Hamas parce que le Hamas, en fait, est un ennemi du processus de paix et donc quelque part un ennemi de la création d'un État palestinien qui ne peut venir que du processus de paix. Et aujourd'hui, se retrouve face à face un premier ministre israélien et une organisation terroriste que lui-même a quelque part soutenu, quoi. Deux ennemis de la paix. La phrase est entre guillemets. C'est le grand journal israélien Haaretz qui cite ses propos publics devant les élus du Likoud. Quiconque veut contrecarrer l'établissement d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et le transfert d'argent à Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. C'est écrit, c'est public. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, pour faire très très simple, il y a eu des Arabes, il y a eu des Palestiniens, il y a eu des Israéliens qui ont souhaité ardemment, au plus haut niveau, et dans la population, et dans la société civile, la paix entre tous ces gens, entre ces peuples, entre ces croyances différentes, et qui ont souhaité le processus de paix. Et il y a des gens qui ont tout fait pour que ça ne marche pas, pour que ça capote, qui sont les extrémistes des deux camps, notamment les extrémistes de droite et d'extrême droite en Israël, et de l'autre côté, les terroristes palestiniens. Voilà. C'est à cause de ces gens-là qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Alors, maintenant, on va se pencher un petit peu sur la France et son rôle dans tout ça. Enfin, la France n'est pas responsable directement, mais le fait que la France a varié dans sa politique au niveau du Proche-Orient, vachement intéressant. Je suis au décalage parce qu'il est 22h08. Ouais, l'assassinat d'Itsak Rabin, par exemple. Itsak Rabin, donc c'était un Israélien qui justement voulait la paix. Itsak Rabin, il a été assassiné par un extrémiste juif, israélien, d'extrême droite. Voilà. Ce sont ces gens-là, en fait, qui ont fait qu'il n'y a pas pu y avoir de paix, quoi. Zakok, merci beaucoup pour le cinquième mois. Bachibouzouk pour le quatrième mois. Denise pour le prime. Dur à cuire, j'avais pas vu, merci. Le septième mois, merci de votre soutien. Alors maintenant, la France dans tout ça. Merci l'Humanité, le journal L'Humanité, qui vraiment fait un bon boulot en ce moment sur toute cette actualité et qui nous fait en une page, et c'est vachement clair, 60 ans d'évolution de la France sur le conflit au Proche-Orient, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, la France a porté activement la solution à deux États, qui, à mon humble avis, est une des conditions sine qua non de la paix dans la région. Depuis 20 ans, les présidents successifs, donc depuis Chirac, on va dire, donc Nicolas Sarkozy, François Hollande et le président Macron, semblent peu à peu renoncer, mais sans le dire, sans l'affirmer, à cette position historique de souhaiter deux États dans la région. Sauf que tout à l'heure, en direct, et vous l'avez pu l'écouter avec moi, le président Macron a réaffirmé le fait que la coexistence de deux États était une condition sine qua non de la paix dans la région. Donc est-ce que le président Macron est en train d'évoluer sur cette question? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours. On lit cet article qui est passionnant. Officiellement, rien n'a changé depuis des décennies. De Pompidou à Macron, passant par Mitterrand, Chirac ou Hollande, la France a toujours porté en cohérence la doctrine gaulliste sur le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire la solution à deux États. Comme le prévoit d'ailleurs le plan de partage de l'ONU, voté en 1947 avec la voix de la France, je vous le disais, en 1947, le plan de partage de la Palestine par l'ONU, il prévoit la création de deux États, hein, déjà. Et la France vote à l'époque ça, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, bien sûr. Mais dans les actes, la politique française n'est plus la même depuis au moins une vingtaine d'années, écrit Luma. L'actuel président de la République s'inscrit dans la continuité de ce tournant silencieux, initié par Jacques Chirac à la fin de son second mandat et perpétué par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Luma nous explique que jusqu'à Chirac, c'est la solution à deux États qui est mise en avant par la France, et ça change à partir de Chirac, mais avec Chirac aussi à la fin de son deuxième mandat. Dans un communiqué en réaction à l'attaque du Hamas qu'Emmanuel Macron co-signe avec les chefs de gouvernement américains, britanniques, italiens et allemands, dans ce communiqué qui a suivi les attentats, notamment signé par la France, il n'est nullement question de la position historique de notre pays, celle qui la différenciait du monde occidental. Tout juste peut-on lire que ces cinq pays soutiennent des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens, ce qui n'est pas la même chose, reconnaissent les aspirations légitimes du peuple palestinien, mais sans jamais les nommer, sans jamais parler de deux États, ni même de parler du mot paix. Devant l'Assemblée nationale, le président communiste du groupe GDR, qui s'appelle André Chassaigne, a rappelé à la première ministre Elisabeth Borne la position historique de notre pays. La France doit reprendre le flambeau de la paix qu'elle a abandonné depuis tant d'années, dit-il. Être à l'initiative d'un conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui qui mette fin à la politique d'occupation et se consacrer à la recherche d'une solution à deux États coexistants. En novembre 1947, la France vote la résolution 181 des Nations Unies sur le partage de la Palestine entre deux pays, donc l'un arabe, l'autre juif. Six mois plus tard, on revient donc à ce que je vous disais, David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël que le gouvernement français reconnaîtra un an plus tard. Et là, on rentre dans une première phase des relations entre la France et Israël, qui est une phase d'intense coopération, notamment sur le plan nucléaire, hein, pour aider Israël à se doter de la bombe, ou encore en 1956, lors de la crise du canal de Suez, nationalisé par l'Égypte. La France, à l'époque, voit en Israël quoi ? Un partenaire pour lutter contre le nationalisme arabe. L'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958... qu'est-ce que dit la phrase ? Attends, il y a un mot qui ne va pas. Le change... Il manque un mot. Ok, il manque un mot, mais en gros, c'est l'arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1958 ne change rien à cette politique de soutien un peu inconditionnel et très fort à Israël. Voilà, c'est le rien qui manque. Jusqu'en 1967, et là, 1967, eh bien, il y a un vrai retournement, nous dit Luma, dans la politique française. Le 5 juin, Israël, se sentant menacé par des exercices militaires dans le désert du Sinaï, attaque l'Égypte, qui venait de fermer le détroit de Tiran au bateau israélien. De Gaulle suspend alors les ventes d'armes à Israël, qu'il considère comme l'agresseur. Il va alors lier les relations bilatérales entre les deux pays avec les situations dans les territoires occupés. Et là, De Gaulle réaffirme le fait qu'il faut deux pays. C'est le point de départ du non-alignement français sur les positions américaines lors de ce conflit. Plus tard, Pompidou suivra la position gaullienne. Giscard d'Estaing reconnaîtra l'OLP, l'Organisation Libération de la Palestine, comme principal interlocuteur, et signera une déclaration de Venise en 80 qui demande la création d'un État palestinien. Mitterrand réitérera la même demande devant la Knesset, le Parlement israélien, accueillera Yasser Arafat en France. Jacques Chirac fut le dernier chef d'État français à porter cette politique active pour la solution à deux États. Et puis il y a un tournant officiel, officieux, qui ne s'est jamais vraiment dit, qui intervient au milieu des années 2000, tandis que la France est toujours dirigée d'ailleurs par Jacques Chirac, avec le déclenchement de la guerre contre le terrorisme. Israël s'impose comme un allié, avec l'idée que nous serions des Occidentaux face à la barbarie. Là, c'est le développement des actions terroristes, notamment sur le sol européen, et c'est ce qui fait évoluer, à partir du deuxième mandat de Chirac, la position française au Proche-Orient. Sans rupture officielle avec la doctrine gaulliste, Nicolas Sarkozy met en scène sa proximité avec Israël, pensant pouvoir influer sur le gouvernement de Netanyahou. Échec. Puis arrive François Hollande, qui, sitôt à l'Élysée, renie sa promesse de campagne de reconnaître l'État palestinien, lui préférant, je cite, un chant d'amour pour Israël et ses dirigeants. L'un des derniers coups de canif en date dans la doctrine française a été donné par l'ambassadeur français à Tel Aviv, Éric Danon, en 2020, qui déclare « Nous pouvons accepter toute solution si les Palestiniens et les Israéliens s'accordent dessus », sans recadrage du président Macron à l'époque, qui rappelait pourtant en 2018 qu'il n'y avait d'autre solution que celle à deux États. Voilà. Vous avez entendu avec moi le président Macron tout à l'heure, pendant 11 minutes, et pour moi le passage le plus intéressant de cette déclaration, on a pris des petites notes, c'est quand le président Macron, à peu près à la moitié, dit « la lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix à deux conditions, sécurité pour les Israéliens et un État pour les Palestiniens ». C'est-à-dire que la position classique, la parole de la France qui, au fil des décennies, à part la période qu'on vient d'évoquer là, entre Chirac, deuxième mandat jusqu'à aujourd'hui, d'une solution politique qui passe par deux États, eh bien, il semblerait que le président Macron reprenne ce discours aujourd'hui. Voilà. Là, c'est mes notes. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein ? En 11 minutes, t'es un peu déçu, moi. Nicolas Co, bonne nuit. Et on va finir avec un article sur la question économique aussi, parce que ce n'est pas qu'une question politique, ce n'est pas qu'une question militaire. Et vous avez le journal Les Échos qui, sous la plume de Pascal Perry, qui était un économiste et qui est un géographe, nous dit, ben oui, mais il y a aussi une dimension économique dans ce conflit et on ne réglera pas le problème si on ne règle pas aussi la question de l'économie palestinienne. Quel écart entre la puissance économique israélienne fondée sur la tech, le spatial, la défense, l'agroalimentaire, l'environnement, avec la très modeste économie des territoires palestiniens, vous le savez, hein, moi j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps là-bas, donc j'ai pu le constater. Une proto-industrie s'est développée en Cisjordanie, constituée de petites unités de transformation faiblement qualifiées, mal rémunérées. On parle de la main-d'œuvre. La croissance de l'économie palestinienne en Cisjordanie est située autour de la barre des 2%. Et pour gagner leur vie dans des meilleures conditions, des milliers de Palestiniens vont chercher du travail chez les employeurs israéliens dans des entreprises plus prospères. De façon générale, à l'exception d'une bourgeoisie locale, les Palestiniens ont de faibles revenus. Ventre vide. J'ai passé un petit peu de temps là-bas. Ventre vide n'a pas d'oreille, dit le bon sens, cette formule, écrit Pascal Perry, s'applique à une majorité des actifs des populations palestiniennes dans les territoires ou plus encore à Gaza. Gaza est un chaudron social à ciel ouvert. Il y prospère une idéologie de la violence radicale alimentée par une situation sociale très dégradée. La population y est très jeune. 50% sont au chômage. 50% de la population de Gaza est au chômage et vivent mal des soutiens de l'extérieur, notamment du Qatar, tandis que les grands dirigeants du Hamas, eux, sont confortablement exilés justement Qatar, exilé à Doha. Les seules industries sont celles du bâtiment, l'embouteillage du Coca-Cola et celle clandestine de l'assemblement d'armes importées de l'extérieur. La pêche a un faible rendement avec une bande côtière qui est contrôlée par les gardes-côtes israéliens. Dans de telles conditions, peut-on imaginer une formule à deux États ? Hein ? Peut-être au stade d'un long processus, car à ce stade, il n'y aura pas d'État palestinien viable s'il n'y a pas d'économie palestinienne durable. Les principaux obstacles à la réalisation de cette promesse, c'est-à-dire qu'une économie palestinienne qui fonctionne un petit peu, sont connus. D'abord, un territoire cohérent. Hein, on va se trouver une carte du Proche-Orient, vous allez comprendre. Hein. Un territoire cohérent. pas dire que ce soit vraiment le cas. Hein. Alors. Oh, elles sont moches ces cartes. Carte territoire palestinien. Une carte de la BBC là. Bon, la source est à peu près propre. Voilà. Ici, là, à droite là. Là. Où est-ce qu'elle est ? Green BBC. Ici là. Là, là, voilà, voilà. C'est 49, c'est une carte historique. Ça. Oh, je suis un bouffon. Ah oui, si, c'est bon. C'est, si je descends, je vais avoir la nouvelle. C'est l'évolution à travers les. Ok. On en est où là ? 82. Frontière israélienne actuelle. Voilà. En bas à gauche, là. La bande de Gaza. Voilà, tout petit, là. Vous avez 2,2 millions de personnes qui vivent là. Là. Ma petite bande, là. Ici, là. 2,2 millions de personnes. Une des densités les plus importantes au monde. Ici, vous avez la Cisjordanie, quoi. Ici. Voilà. Donc, je reviens à l'article. Hop. Les conditions pour que l'économie palestinienne puisse se développer un petit peu. Un territoire cohérent. Les discontinuités spatiales entre Gaza et la Cisjordanie sont insurmontables. Les discontinuités internes au territoire de Cisjordanie ne le sont pas moins. Je vous remonte la carte. Vous voyez, hop, la Jordanie, la Cisjordanie ici. La partie sous contrôle palestinien est interrompue par des frontières intérieures. Il faut sortir du territoire qu'on appelle le territoire autonome pour y revenir quelques kilomètres plus loin. Dans une économie, il faut du transport, il faut des camions, il faut que ça roule, il faut que ça circule. C'est juste. Donc je vous le disais, j'ai eu jeune journaliste, j'ai eu la curiosité d'aller voir sur place ce Proche-Orient dont tout le monde me parlait. Et donc je parlais au quotidien dans les journaux, puisqu'il y a eu une époque, le Proche-Orient, on en parlait tous les jours, voilà, l'époque où on croyait au processus de paix, l'époque, hélas, où il y avait les violences et les attentats, et donc on en parlait beaucoup, et un jour je me suis dit, ben, c'est bien beau de parler du Proche-Orient tous les jours, mais il s'agirait de savoir de quoi tu parles. Et donc, à l'époque, j'avais du temps, et donc j'ai pris une semaine de vacances, et je suis allé en Israël, et je suis allé dans les territoires palestiniens, rencontrer notamment des confrères, des jeunes journalistes qui, comme moi, qui étaient des jeunes journalistes comme moi, mais qui eux étaient correspondants ou envoyés spéciaux et qui m'ont un peu pris par la main et qui m'ont emmené à Jérusalem, à Tel Aviv et dans les territoires. Et j'ai rencontré des jeunes Israéliens, j'ai rencontré des jeunes Palestiniens. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'ils avaient tous raison. Qu'ils avaient tous raison. Des jeunes Israéliens qui n'étaient pas contre l'idée de vivre en paix avec les voisins arabes, mais qui voulaient vivre en sécurité sans les bombes qui, à l'époque, quand j'étais allé, explosaient en terrasse de café, aux arrêts de bus. Je me rappelle d'une promenade avec Xavier Yvon, qui était en correspondant d'Europe 1 à Jérusalem, et on passe dans la rue, et puis il monte une terrasse de café où il y avait des gens attablés, et il me disait, bah, tu vois, là, ça a pété la semaine dernière. 10 morts par exemple, voilà. Donc des Israéliens, pourquoi pas prêts à vivre en coexistence pacifique avec des Arabes et des Palestiniens, mais en sécurité. Et puis quelques jours plus tard, je vais dans les territoires et je vois des gens empêchés, des gens qui ne pouvaient pas vivre, des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, des gens qui ne pouvaient pas travailler, des gens dont l'horizon, on parle, c'était il y a longtemps, hein, on parle de ça en 1980, au début d'ITélé, je crois, donc j'arrive à 99, au début des années 2000, des gens qui n'avaient aucun horizon, en fait, aucun horizon. Voilà. Et qui eux aussi voulaient vivre en paix dans certains conforts matériels, mais dont l'horizon était totalement bouché par la situation, quoi. Mais, et là, je ne suis un spécialiste de rien, mais tu te rends compte qu'ils ont tous raison, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, et puis. Ils sont tous légitimes, hein, et qu'à un moment, en plus de leurs différences, de leurs oppositions, de leurs intérêts divergents, la politique s'en mêle et qu'ils sont à un moment gouvernés par des gens qui soufflent sur les braises, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu à l'époque. Et ça n'a pas changé depuis. Donc, il faudrait un territoire voilà, où il n'y a pas de frontières intérieures, il faudrait un territoire cohérent pour que l'économie palestinienne se développe. Aucune économie ne peut être efficace dans de telles conditions. Les deux autres obstacles au développement économique des territoires présentent un caractère politique. L'autorité palestinienne corrompue, je parlais des dirigeants, n'est pas en état d'assurer la sécurité juridique du marché. À Gaza, le Hamas perçoit l'équivalent d'un impôt révolutionnaire. Le cadre politique très imparfait interdit le progrès. C'est-à-dire, ni le cadre politique en Cisjordanie avec l'autorité palestinienne, ni le cadre politique avec le Hamas, qui est le patron, le maître de la bande de Gaza, ne permet un développement économique cohérent. Manifestement, ça n'est même pas la priorité de toute façon de ces deux pouvoirs. Enfin, la politique de soutien financier du gouvernement actuel d'Israël aux entreprises de colons de Cisjordanie leur offre un avantage compétitif face aux concurrents palestiniens. Ces entreprises soutenues par Israël ont un accès facilité au marché, reçoivent des subventions d'État dont les Palestiniens ne bénéficient pas, dont les entreprises palestiniennes qui ne sont pas confrontées à une concurrence loyale. Quoi. Dans de telles conditions, conclut Pascal Perry, les entreprises historiques palestiniennes ne sont pas en situation de grandir. Voilà. Donc il y a aussi une dimension économique à ce conflit. Voilà. Les amis, c'est notre quatrième stream de la semaine, quasiment uniquement consacré au Proche-Orient. Et on pourra encore parler, on pourra en parler encore des heures. Et d'ailleurs, on en parlera encore des heures demain, puisque demain, je vous donne rendez-vous à 20h dans l'Hebdo Étienne. Voilà. Avec quatre journalistes ou ex-journalistes, Mimi Hegel à droite, qui est une habituée de la chaîne aujourd'hui et créatrice de contenu et youtubeuse, mais a longtemps été journaliste. Michael Sadowski est le directeur de la rédaction du très bon site d'information Huffington Post, le HuffPost. Julien Pain, un confrère de France Info, qui est spécialisé en lutte contre la désinformation, les fake news et le debunk. Et Thierry Moreau, un ami dont j'aime la sérénité, la tranquillité, même sur les sujets les plus compliqués. Je me suis dit que ces quatre invités sur ce sujet-là, ça le faisait. Donc les amis, on se retrouve demain à 20h pour cette émission, voilà, sur laquelle il faut que je travaille encore un petit peu. À 20h, quelqu'un me demande 17h ou 20h, 20h. Et tu as raison de demander 17h ou 20h, parce qu'effectivement, il y a un stream ce week-end qui sera à 17h. Que voici. Tadam ! Donc ça, c'est le samplet de dimanche, attention, 17h, avec une bonne petite blague de votre serviteur. Mon tweet de tout à l'heure disait, est-ce que vous sentez ce vent de jeunesse qui souffle sur l'univers du jeu vidéo ? Dimanche, soirée multijeux avec Marcus, on est à peu près de la même génération tous les deux. Au menu Pain, Soul Calibur et Portal, voilà. Et rendez-vous, c'est marqué ici, à 17h exceptionnellement et pas à 20h, parce que pourquoi 17h à votre avis, pourquoi 17h dimanche et pas 20h, parce que qui est Marcus, c'est quelqu'un de ma génération qui en fait ne vit que du jeu vidéo, qui a notamment une émission sur le jeu vidéo qui est historique, qui s'appelle Game One, voilà, et qui viendra nous parler de trois jeux. On est en multijeu. Pain, qui est son jeu de cœur. D'après ce que j'ai compris, tu balances un mec sur des immeubles, pour, genre avec une espèce de... comme ça, là, pour casser les immeubles. OK. Soul Calibur, avec Soul Calibur version modifiée, customisée par lui. C'est-à-dire qu'il est parti de Soul Calibur 5 et il l'a customisé avec des personnages. Bon, on va voir. Et Portal, voilà. Je n'ai qu'une petite idée de tous ces univers, mais il va nous faire découvrir ça. On va se régaler. Et c'est dimanche à 17h, vous l'avez deviné, parce qu'il y a rugby, parce qu'il y a 21h, dimanche, il y a le coup d'envoi du quart de finale du mondial de rugby, voilà, entre la France et l'Afrique du Sud, qu'on espère gagner, bien sûr. Ça veut dire que vous pourrez regarder Ça me plaît dimanche en fin de journée et enchaîner avec le rugby. Voilà, je pense que ça va être sympa. Bon, donc deux rendez-vous ce week-end. Là, je vais vous laisser. Je vais travailler un petit peu sur l'émission de demain. Je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et puis encore une fois, bravo, merci. Parce que quand je vois que sur un sujet comme celui-ci, aussi tendu, qui est un des sujets dans l'actualité qui provoque le plus de tension, on arrive à ce chat, qui est parfois un peu animé. Il y a des gens qui arrivent qui sont un peu en mode troll, un peu en mode très convaincu. Hein, et puis dans l'expression de leur conviction un peu rude, bah, qu'on arrive à cette, malgré tout à cette qualité dans le chat et de gens qui sont prêts à discuter ensemble, à s'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bonheur, quoi. Voilà. N'oubliez pas, vérifiez toujours les informations, doutez des informations, vérifiez les informations, ne vous pressez pas trop, voilà, et vérifiez tout, y compris ce que je vous dis, bien sûr. Je vous dis, pour répondre à Julo, mon ami Modo, et je voudrais remercier d'ailleurs la qualité de la modération, parce que je vous fais bosser quand même sur les sujets pas faciles. Donc, pas de stream demain matin. Hein, parce que demain je voudrais bosser un peu sur l'hebdo. Et par contre, demain soir on se trouve à 20h. Un petit raid comme d'habitude. Ok, je vous mets 2 minutes de musique, 2 minutes de pause. On fait un petit raid tous ensemble. Vous me proposez des gens qui sont en live actuellement, des streamers, des streameuses, qu'on va aller soutenir, dont on va éclairer le contenu, parce que c'est important aussi de le faire. Je vous mets la petite musique qu'on s'est calée tout à l'heure, qui était un peu chill là. C'est ça, je crois. Ou c'est ça? Ah, c'est ça. Attends, j'ai un doute. Où c'est ça? Ah, c'est pas mal, on va se mettre ça. 2 minutes chrono de musique. Et puis on raid. Je lis vos propositions. Normalement, on dit plus propal depuis 1972. Il faut que j'arrête avec ce mot. A tout de suite pour le raid. Restez, c'est toujours des moments humainement sympas. Parfois, c'est vraiment bien même. A tout de suite. On va où ? Elle est belle cette chanson. On raid dans 1 minute. Dans 30 secondes. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you never flown before, 15 secondes. You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take life. Hey, on y va. Although you're earthbound. Bien, petite chanson douce qui nous met un petit peu de baume au cœur en ces périodes parfois compliquées. Les amis, je vous annonçais Marcus dimanche à 17h sur ma chaîne pour un nouveau samplay multijeu. Vous savez quoi, Marcus The Boulet, le nom de sa chaîne, eh bien il est en live, 427 viewers actuellement sur la chaîne. On arrive avec un prompt renfort pour partager l'univers de Marcus. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Voilà. Soyez pas surpris, il est un petit peu plus jeune que moi, donc il a un teint un peu plus lumineux, on sent qu'il a un peu plus d'énergie, de vigueur, je dirais même. Donc vous allez passer un peu du moumou à quelque chose de plus énergique, je dirais même de plus dur. Ouais. Une légende de jeux vidéo, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Marcus. Je vous souhaite une très belle soirée. Cette émission, vous l'aurez en replay demain sur YouTube, dès maintenant sur Twitch pour les abonnés. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Et je vous dis à demain, 20h, pour l'Hebdo Étienne. Ciao, ciao, et salut à Marcus.